Vous êtes sur RTL.
Des petits matins, on vous retrouve dès 4h30 demain matin. Bonjour à tous, bienvenue. Alba Ventura accueille aujourd'hui à 7h40 la mère de Maëlys, Jennifer de Harojo, et ce à quelques jours de l'ouverture du procès de Nordal Lelandais. Elle ne prononcera jamais son nom dans cet entretien où elle revient sur la soirée de la disparition, la découverte du corps de sa fille et décrit une famille broyée. On attirait la mort, dit la mère de Maëlys après les deux fausses couches qui suivirent le drame familial. Jennifer de Harojo publie demain aux éditions Robert Laffont un livre intitulé tout simplement Maëlys, et elle prend la parole à 7h40 sur notre antenne. J'attire aussi votre attention sur notre brigade RTL et sur notre RTL événement à 7h20. Mourad Jabari a suivi ses détectives dont la pandémie a changé le métier. Il traque désormais les abandons de postes douteux, les arrêts maladie louches. Il faut dire que 38 000 faux sinistres ont officiellement été déclarés en 2020 auprès de nos assurances. Auparavant, Nerissa Emani vous fera découvrir ce que seule l'éducation nationale sait initier, les fameux Pax blancs des enseignants. Un phénomène difficilement quantifiable, mais bien réel, croyez-moi, pour éviter ou favoriser sa mutation en France. Vous allez bien rire. Enfin, je vous annonce d'ores et déjà un grand moment de radio, dès 13h sur RTL, puisque Pascal Praud, nous en parlions un instant avec Jérôme Florin, et vous, auditeurs qui avez la parole, pourrez fêter les 75 ans de Michel Sardou, un dialogue à n'en pas douter, unique. Nous sommes le mercredi 26 janvier 2022. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, l'enquête après les révélations choc sur les soupçons de maltraitance dans les EHPAD.
Oui, le patron du groupe Orpea, mis en cause, va être convoqué par la ministre en charge, Brigitte Bourguignon. Lui est accusé d'avoir préparé des attaques contre la communauté juive de Limoges. Un militant d'ultra-droite est jugé pour terrorisme à partir d'aujourd'hui. À la une également, le courage de Florent Pagny qui va devoir se battre contre un cancer du poumon. Il en a lui-même fait l'annonce, vous l'entendrez, il doit annuler sa tournée. Et puis il n'y a plus de Français à Melbourne. Après Gaël Monfils, Alizé Cornet a été éliminée cette nuit à l'Open d'Australie.
La politique, Olivier Bost.
Et dans la présidentielle, on va parler de ceux qui avaient leur chance et qui n'y sont pas allés. Vous verrez, ça raconte beaucoup de choses de la campagne.
Vos explications dès la fin du journal.
RTL Matin.
Vous l'entendiez hier matin sur RTL, Victor Castanet dans son livre Les Fossoyeurs, qui affirme que l'obsession de la rentabilité du groupe Orpea avait entraîné dans un certain nombre de leurs EHPAD un rationnement de la nourriture pour les personnes âgées, un manque de soins, un manque d'hygiène également. Eh bien l'entreprise qui dément va devoir s'expliquer. Le patron va être convoqué par la ministre en charge de l'autonomie, Brigitte Bourguignon. Et ces mises en cause sont très mal vécues dans les établissements, notamment publics, où les personnels essaient tant bien que mal de faire leur travail correctement, comme dans cet EHPAD du Clos des Tilleuls à Hasbrouck, reportage de Franck Hanson.
À 97 ans, Raymond était trop fragile pour rester seul chez lui. Entre sa télévision et la salle d'activité, il se sent en sécurité au Clos des Tilleuls.
J'avais pu me déplacer, pas d'intelligent. Hein.
Ah, vous êtes en sécurité avec nous ici?
Voilà, j'ai le téléphone, j'appelle.
Toujours aux petits soins pour ses résidents, Betty, la plus ancienne des infirmières, ne cache pas son écœurement devant certaines pratiques.
Il n'y a aucun établissement parfait, mais c'est dramatique qu'on puisse déjà restreindre les personnes sur l'alimentation. Pour les personnes âgées, c'est quand même un des plaisirs, enfin je ne veux pas dire le seul avec l'animation. Nous, heureusement, ici quand même, on fait le maximum, on a quand même du matériel. Il manquerait juste un petit peu de bras. C'est un lieu de vie. On passe plus de temps avec eux, avec les résidents, qu'avec notre propre famille.
Rattaché à l'hôpital d'Hasbrouck, cet EHPAD a toujours du mal à recruter. Le personnel se sent parfois un peu oublié dans cette campagne présidentielle. Fatia Mekibès, cadre de santé.
On n'est pas dans une politique de restriction du tout. Le bien-être de nos résidents prime avant tout. Nos directions, ils font ce qu'ils peuvent. Néanmoins, les autorités, oui, pourquoi pas nous aider sur le plan financier pour qu'on puisse améliorer au quotidien cette prise en charge.
Un lieu de vie qui a toujours une liste d'attente pour de nouveaux entrants.
Un reportage de Franck Hanson dans cet EHPAD d'Hasbrouck dans le Nord.
RTL 7h03, la menace de l'ultra-droite en France au cœur d'un procès aujourd'hui pour terrorisme.
Un ancien militaire de 38 ans va être jugé à Paris, accusé d'avoir préparé des attaques contre la communauté juive de Limoges. Cet homme qui s'affichait d'ailleurs comme un suprémaciste blanc, Cindy Hubert.
Oui, ce sont d'abord ses écrits qui ont inquiété les services de renseignement. Sur Facebook, l'homme ne cache pas ses idées extrémistes. Il glorifie les tueries de masse, s'identifie à Anders Breivik, le terroriste norvégien, redoute le grand remplacement par les populations maghrébines. Son profil intrigue d'autant plus qu'il est alors agent de sécurité en charge d'un bâtiment administratif à Toulouse, après un passage par l'armée, 3 ans au 2e régiment de Hussards. La DGSI découvre surtout que l'homme a fait des recherches recherches sur Internet sur des synagogues. À son domicile, les enquêteurs retrouvent trois engins pyrotechniques sur lesquels des boulons ont été collés, un fusil datant de la Seconde Guerre mondiale et des munitions. Le prévenu, lui, assure que cet arsenal était destiné à des essais dans la forêt. Ancien gilet jaune, décrit comme solitaire, l'homme a déjà été condamné deux fois, notamment pour détention d'armes sans autorisation. Entre ce que je dis et ce que je fais, il y a des années-lumière, disait-il d'ailleurs à son dernier procès. Alors dans quelle mesure s'apprêtait-il à passer à l'acte? Le tribunal a trois jours pour trancher.
Merci beaucoup Cindy Hubert. La menace de l'ultra-droite, plus forte que jamais, 1300 individus sont suivis en France. Aux néo-nazis se sont ajoutés des profils complotistes que la crise sanitaire a fait émerger. On y reviendra à 8h. Thomas Proutot notamment a eu accès à l'enquête sur ce réseau de cet homme Rémi Daillet, dont on a beaucoup parlé, soupçonné d'être impliqué dans l'enlèvement de mineurs. Des membres de ce réseau vivent persuadés que des enfants sont sacrifiés dans des tunnels routiers près de Paris ou que des puces électroniques sont cachées dans les vêtements Décathlon. Enquête absolument édifiante, vous l'entendrez. Et puis un rendez-vous effectivement juste après ce journal à 7h20, RTL événement sur ces détectives privés qui traquent les fraudeurs. Ce n'est plus l'adultère presque le cœur de leur métier. 30% de demandes en plus pour des patrons qui veulent vérifier la réalité d'un arrêt maladie ou sur les fraudes à l'assurance. Là encore, la pandémie a modifié les habitudes et Mourad Jabari a suivi un détective en planque.
7h05, la flambée Omicron en France. On est aujourd'hui le deuxième pays le plus touché en Europe.
Oui, derrière le Danemark, si on ramène le nombre de cas à la population. 500 000 cas détectés à nouveau hier. La faute à un relâchement des gestes barrières. Au fait également qu'Omicron fasse un peu moins peur. Exemple, dans les universités, les partiels, les cours se déroulent en ce moment. Et Nathan Bocard, vous avez fait le test dans les amphis avec un capteur de CO2.
Oui, j'ai donc confié ce petit boîtier blanc à un étudiant de l'école du Louvre pendant un amphi. Résultat, 1400 parties par million, beaucoup plus que le seuil recommandé de 800 ppm. J'ai donc attendu la fin des cours pour annoncer le résultat de mon expérience aux élèves.
Si je vous dis qu'on a fait un petit test, que le renouvellement de l'air...
Mais pour la plupart, ça n'est pas un problème.
Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ou pas du tout?
J'avoue que c'est pas quelque chose qui m'effraie plus que ça.
Pas plus qu'en soirée ou ce genre de choses.
Je fais quand même attention, distance barrière, etc. J'ai l'hydroalcoolique avant de rentrer. Après, c'est vrai que tout le monde n'a pas tout le temps son masque, mais en général, la plupart des gens le portent.
Moi, je préfère prendre le risque d'être malade une semaine que de ne plus aller en cours comme on a vécu l'année dernière. C'était une situation très compliquée pour tous les étudiants, beaucoup de dépression, etc.
Et pour limiter les risques, une jauge de moitié s'applique dans les amphis. 300 élèves maximum pour 600 places au total. Et l'école me l'assure, 100% de l'air est renouvelé en permanence en amphi. Mais ce n'est pas suffisant. D'ailleurs, selon leurs propres calculs, le taux de CO2 y est de 1000 ppm. Là encore, c'est au-dessus du seuil recommandé.
Reportage de Nathan Bocard avec le capteur CO2 RTL.
Florent Pagny annule sa tournée. Il a lui-même annoncé souffrir d'un cancer du poumon. Vous entendrez le message qu'il a adressé hier soir dans un instant sur RTL. Il est 7h07. A tout de suite.
Yves Calvi. RTL Matin. RTL Matin.
RTL 7h08, la suite du journal d'Olivier Bois. On a donc une très grande pensée pour Florent Pagny ce matin.
Oui, le chanteur en a fait l'annonce lui-même hier soir qu'il souffrait d'un cancer du poumon et qu'il allait devoir se concentrer sur ce combat. On l'écoute.
Je ne vais pas pouvoir terminer ma tournée des 60 ans. En effet, on vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon cancéreuse, pas très sympathique, qui ne peut pas s'opérer. Donc, je dois rentrer dans un protocole de 6 mois de chimiothérapie et de rayon X, ce qui fait que je suis désolé, mais bon, vous savez tous que dans la vie, le plus important, c'est la santé. Et quand on a un problème, il devient prioritaire. C'est ce qui explique la raison pour laquelle je ne pourrais pas honorer mes engagements. Portez-vous bien, et puis quand tout ça sera réglé, ce sera peut-être la tournée des 61.
Voilà donc le courage de Florent Pagny qui a ajouté hier soir donc qu'en attendant de retrouver son public, il passait avec sa compagne en mode guerrier pour affronter l'épreuve. On le retrouvera tout de même sur le fauteuil des jurés de The Voice puisque l'émission a été enregistrée.
Et on en vient à ce document RTL ce matin. La mère de Maëlys témoigne.
4 ans et demi après la mort de sa fille, alors que le procès de Nordal-Lelandais s'ouvre la semaine prochaine, elle s'est confiée à Alba Ventura sur sa vie brisée par le deuil. Son mari et elle se sont séparés alors qu'ils avaient essayé après le drame d'avoir un autre enfant.
Et on a essayé peu de temps après. On s'est dit qu'on voulait justement, parce que dans la maison, il n'y avait plus de vie. Et on voulait remettre un peu de bonheur et de joie dans cette maison qui était toute triste sans Maëlys. On n'était plus le clan à quatre comme on était avant. Et malheureusement, ça n'a pas tenu. J'ai fait deux fausses couches qui devaient naître à chaque fois au mois de novembre, comme Maëlys. Donc après, ça nous a encore plus, pour ma part, et puis même pour Joachim, ça l'a encore plus, nous a encore plus attristés. On a l'impression qu'on a tiré que la mort vers nous. Ça nous a éloigné petit à petit.
Le témoignage bouleversant de Jennifer Desarrojo que vous retrouvez en longueur tout à l'heure à 7h40 avec Alba Ventura. Branle-bas de combat à EDF, les syndicats appellent à la grève aujourd'hui dans un mouvement qui emporte une très rare unanimité des salariés au patron qui dénoncent la décision récente du gouvernement de forcer EDF à vendre à prix cassé à ses concurrents privés de l'électricité pour limiter la hausse des tarifs en France. Le manque à gagner est estimé à 8 milliards d'euros pour la compagnie.
Le sport maintenant, il n'y a plus de Français qualifiés à l'Open d'Australie.
Après l'élimination de Gaël Monfils, c'est Alizé Cornet qui a perdu en quart de finale, défaite en 2-7, 7-6, 6-1 face à l'américaine Collins.
Ça va être paradoxal, mais il me manque un peu d'expérience à ce niveau-là de la compétition. Moi, c'est mon premier quart de finale, j'avais l'impression d'être un peu une rookie, quoi. J'avais envie vraiment de profiter du moment à fond, et au final, je pense que je me suis un petit peu grillée là-dessus aussi. Après, ce qui me manque, enfin, voilà, c'est d'en jouer d'autres et de bosser sur certains trucs dans mon jeu aussi, évidemment. Il y a eu des lacunes qui ont été vraiment mises en avant aujourd'hui avec le jeu de Collins. Donc, c'était pas mon meilleur match, mais c'est peut-être le match sur lequel je vais apprendre le plus de choses en termes de marge de progression.
Alizé Cornet, donc après sa défaite cette nuit à l'Open d'Australie, les handballeurs français, eux, peuvent encore se qualifier pour les demi-finales de l'Euro. Pour cela, il faudra assurer à minima un match nul contre le Danemark ce soir à 20h30. Et puis, pour finir, un mot de cette vente aux enchères exceptionnelle. Julian Lennon, le premier fils de John, propose une série de souvenirs personnels sous forme de NFT. Ce sont ses œuvres numériques certifiées et notamment le manuscrit de la main même de Paul McCartney sur la chanson Hey Jude. Il l'avait écrite pour lui remonter le moral à l'époque où ses parents se séparaient. Ce qui nous donne l'occasion ce matin d'écouter l'une des plus belles ballades de l'histoire du rock. Hey Jude, don't let me down. You have found her. Voilà donc la chanson Hey Jude, dont le manuscrit en effet est mis aux enchères entre 50 et 70 000 dollars tout de même.
Les courses, elles ont lieu à Cannes-sur-Mer.
Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 13, le 5, le 8, le 14, le 15, le 9 et le 4. La dernière minute, c'est le 5.
Et le journal vous a été proposé par Olivier Bois sur RTL.
RTL Matin.
Il est 7h13, la politique avec vous Olivier Bost, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Ils avaient leur chance, ils n'y sont pas allés. Vous nous parlez ce matin d'Edouard Philippe, de Laurent Wauquiez, de Marion Maréchal. Les uns et les autres ont laissé passer leur tour et ont choisi de réserver ce tour pour la prochaine élection présidentielle.
Oui, et parfois les absents en racontent autant que les présents. Dans cette bataille présidentielle molle, ceux qui ont fait le choix de ne pas être candidats méritent d'être listés. Parce que chacun d'eux éclaire un peu le moment politique que nous vivons. Nous sommes à 74 jours du premier tour et personne n'y voit clair. Une bonne part des électeurs cherchent ou attendent encore leur candidat. Alors d'ici la vraie campagne, si elle commence un jour, je vous propose l'histoire de la présidentielle qui n'a pas eu lieu, un scénario alternatif enrichissant.
Mais pourquoi s'intéresser justement à ceux qui ne sont pas candidats ?
Alors parce qu'un sondage taquin, d'Odoxa pour les chaînes Public Sénat et LCP, nous dévoile que plus de 6 Français sur 10, 65% pour être précis, pensent qu'Edouard Philippe ferait un meilleur président qu'Emmanuel Macron. Je vous avais dit que c'était taquin. L'ancien Premier ministre est jugé compétent, convaincant et sympathique. Mais voilà, il n'est pas candidat. Résultat, il est engagé dans une bataille larvée pour avoir le plus d'influence possible lors du prochain quinquennat, pour se démarquer le plus possible et avoir ses chances en 2027. Alors en attendant cette échéance lointaine, la popularité d'Edouard Philippe souligne en creux les faiblesses d'Emmanuel Macron.
Mais vous voulez nous dire qu'il aurait dû être candidat cette année ?
Alors ça aurait eu du panache, mais le pari demandait beaucoup trop de courage. Dans un autre style, Laurent Wauquiez a aussi décidé de laisser passer 2022, trop abîmé par son tempérament et ses déboires à la tête des Républicains, bien plus que par ses idées. car l'histoire est pleine d'ironie. Ce sont ces idées, précisément celles qui avaient fait fuir Valérie Pécresse, que la candidate porte maintenant haut et fort. Une droite qui s'assume pleinement sur la sécurité, l'immigration, l'identité. Wauquiez a loupé le moment de sa vie, estime un ministre d'Emmanuel Macron, issu des LR.
Donc, si je vous suis bien, le renoncement de Laurent Wauquiez souligne la longue hésitation de la droite à être vraiment à droite.
Bah, tout à fait. Mmh. Et je vous donne un autre exemple, Marion Maréchal. Oui. Elle n'a pas eu le cran d'Éric Zemmour. Et c'est une erreur du perdant-perdant, décrit un responsable du Rassemblement National. Si Éric Zemmour gagne son pari et ratatine Marine Le Pen, eh ben, elle se dira qu'elle aurait dû y aller. Oui. Si l'opération d'Éric Zemmour échoue, cela montrera que sa tactique de l'union des droites ne marche décidément pas. Son avenir politique, si elle en veut vraiment un, est hypothéqué.
Bon, un mot de la gauche quand même
D'un mot, oui. François Hollande, désormais aveuglé par sa haine d'Emmanuel Macron, se met à regretter de ne pas avoir été candidat lui aussi et y songe. Un clou de plus dans le cercueil du PS. En fait, chacun à leur manière, ces non-candidats racontent les déboires de leur famille ou sensibilité politique et le désarroi des Français. Il démontre que dans cette élection, pour l'instant, l'attente des électeurs n'est pas entièrement satisfaite.
Passionnant. Merci Olivier Bost. On retrouve toute l'actualité politique sur l'application RTL. Et on vous retrouve, vous, tout à l'heure à 8h35 pour notre rendez-vous France 2022 où nous parlerons de nos aînés suite aux révélations de notre confrère Victor Castanet.
RTL Matin, 7h, 9h30
avec Yves Calvi.
Vous allez peut-être le découvrir à 7h16 sur RTL. Chaque année, des enseignants organisent des Pax blancs, des faux pactes civils de solidarité pour être mutés plus rapidement dans la région de leur choix. Une pratique illégale, bien entendu, mais bien connue dans le métier. Notre brigade a mené l'enquête. Bonjour Nerissa Emani.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous avez rencontré des jeunes professeurs qui ont eu recours à cette pratique.
Oui, c'est le cas de Jade, 26 ans, originaire de Grenoble. Elle est affectée à Amiens dès l'obtention de son concours. Mais au bout d'un an, elle décide de se paxer.
Je me suis paxée avec une copine qui n'est pas ma conjointe, on va dire. Je pense qu'on peut appeler ça un faux pax pour obtenir plus de points aux mutations pour la rentrée 2022.
Objectif, retourner à Grenoble car la jeune femme vit très mal l'éloignement avec sa famille.
Je passais des journées à pleurer, à faire des crises d'angoisse, j'enchaînais les arrêts de travail. Et pour moi, c'était la seule solution, mis à part démissionner. Sauf que j'aime mon travail, donc j'avais pas envie de démissionner. Je pense pas que ce soit mal, entre guillemets. Il y a quand même pas mal de gens qui le font.
Jade qui promet de se dépaxer dès qu'elle obtiendra sa mutation.
Mais expliquez-nous comment fonctionne ce système de mutation au sein de l'éducation nationale.
En fait, ça fonctionne par points. Un prof obtient 20 points par année d'ancienneté, puis 50 au bout de 4 ans. Mais il y a aussi des bonifications. 45 points si vous exercez dans un établissement prioritaire, 150 si vous êtes paxé. Les académies les plus attractives et les plus demandées, comme Rennes, Bordeaux, Montpellier, valent très cher jusqu'à 1000 points. Et c'est pour cela que Sonia, prof de philo à Nancy, a décidé de se paxer avec un ami. Elle veut rejoindre Clermont-Ferrand.
L'année dernière, cette région, elle valait plus de 500 points. Moi, il faudrait une dizaine d'années pour que je puisse l'obtenir. Le Pax, ça donne 150 points, ce qui est quand même une bonne marge déjà par rapport à ce qu'ont les profs en moyenne, quoi.
Sonia a conscience du caractère immoral de cette pratique, mais elle l'assume.
Mais dites-moi, Nerissa, est-ce qu'on a des chiffres sur ce phénomène bien réel ?
Impossible de contrôler le nombre de faux Pax, nous répond le ministère de l'Éducation nationale qui n'a pas d'avis sur la question, même si cette pratique est connue de tous dans la profession. Pour Elisabeth Alain Moreno du syndicat SE-UNSA, le problème vient du système de mutation.
On a un système de mobilité géographique qui est totalement sclérosé. Les barèmes sont vraiment importants, mais par contre, ils sont désuets. Par exemple, une bonification de parents isolés, elle a été supprimée. Pour nous, c'est pas possible. Quand les collègues sont dans des situations totalement désespérées, malheureusement, ils se mettent en danger au regard de la loi parce que leur situation n'est pas reconnue.
Elisabeth Moreno qui ajoute un chiffre, 60%, c'est le nombre de demandes de mutation dans le secondaire refusées l'an passé.
La très intéressante enquête de notre brigade RTL sur les faux Pax pour être muté plus rapidement. Merci beaucoup Nerissa Emani. À suivre, RTL événement, enquête, filature et discrétion, c'est donc le quotidien des détectives privés. Un métier qui fait rêver, parfois fantasmé, et de plus en plus de sociétés font appel à ces enquêteurs privés pour traquer les fraudeurs. On vous explique les nouvelles missions de nos détectives à l'heure du Covid dans un tout petit instant.
RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Dans la vie.
RTL.
RTL événement.
7h21, la discrétion est l'essence même de leur métier, vous voir sans être vu. On va vous parler ce matin d'un métier plein de secrets et de fantasmes, les détectives privés. Et figurez-vous que depuis quelques mois, ils sont moins sollicités pour des affaires d'adultère ou des disparitions de proches, mais pour des abandons de poste, des arrêts maladie ou des fraudes à l'assurance, avec une hausse de plus de 30% pour ces demandes. Des petits patrons ou des compagnies d'assurance font de plus en plus appel à eux depuis l'épidémie de Covid. Bonjour Mourad Jabari.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Un reportage rare ce matin car vous avez participé à une filature. Un restaurateur a fait appel à la société Jeux d'Investigation car depuis 2 ans, son cuisinier ne donne plus signe de vie. Le patron, redoutant que le salarié ne travaille dans un autre restaurant, au noir éventuellement, vous l'avez alors suivi dans le métro avec le détective de chez Jeux.
Et durant cette filature, je vais devoir chuchoter. Il faut être discret. Nous sommes en banlieue parisienne sur le quai du métro. Notre cible, ce salarié, est là à une dizaine de mètres. Un bonnet noir, un manteau bleu, un sac à dos gris. L'homme d'une cinquantaine d'années monte dans un wagon.
Détective Jode, on commence cette filature.
Le principal, c'est de jamais quitter sa cible des yeux. Voilà, ça, c'est le principe de base de tout mon détective.
On a laissé un wagon d'écart entre elle et nous.
On peut voir comme c'est vitré à travers l'autre wagon. Il faut se coller à la porte pour voir s'il sort à la prochaine station.
Quelles sont les règles de base dans une filature dans les transports en commun ?
Il faut être ni trop près ni trop loin. Ça peut aller très très vite.
Là, il y a eu plusieurs stations. Vous avez mis un masque blanc, vous avez changé de couleur de masque, vous avez retiré votre bonnet, retiré la fourrure de votre manteau.
Comme ça, là, ils ne pouvaient pas me voir en train de me dévêtir. Comme ça, à la sortie du métro, je serais une nouvelle personne par rapport à lui. Donc là, on va regarder à nouveau s'il ne sort pas du métro.
À présent, on vient de sortir du métro. Notre cible, ce salarié, on le suit dans les couloirs du métro, à une distance raisonnable.
Il est concentré sur son téléphone, la personne se doute totalement de rien.
Le métro arrive, c'est plus compliqué parce qu'il y a plus de monde. Je vous avoue que moi, je le vois plus.
Si, il y a deux trucs derrière.
Il vient de nouveau de sortir du métro, on commence à le perdre.
Il va pas falloir le rattraper, on est obligé d'un peu courir cette fois-ci.
Tellement de monde. Et voilà, notre cible, ce salarié qu'on suit maintenant depuis une bonne demi-heure, il se dirige vers la sortie. Alors là, on sort du métro, on est dans la rue, vous le voyez, devant la poste. La personne a tourné à droite, on a laissé une bonne distance entre lui et nous.
Il y a environ, je dirais, 50 mètres, même un peu plus.
Il nous a toujours pas repéré, il se doute toujours de rien.
Là, bingo, la cible est rentrée dans un café-restaurant. Je viens de voir qu'il y avait une laverie et qu'on va se poser dans la laverie.
Qu'est-ce que vous allez faire? Faire une vidéo? Faire des photos?
Des photos pour notre client ou même faire appel à un huissier de justice pour doubler notre rapport.
Et donc les soupçons se confirment, Mourad, ce salarié, cuisinier, est chef dans un autre restaurant alors qu'il est déjà sous contrat. Il est en fait en abandon de poste, pourtant il réclame des indemnités à son ancien employeur.
Oui, ce restaurateur n'a même jamais vu ce salarié désespéré. Il a donc fait appel à ce détective privé pour la première fois de sa vie. Ce patron qui tient à rester discret a racheté une brasserie en plein confinement et ce salarié présent auparavant n'est jamais revenu.
Il dit que je lui dois de l'argent, donc je ne l'ai jamais rencontré, je n'ai jamais vu au travail. Et c'est comme ça que j'ai demandé à le suivre de près, cet homme-là, s'il ne travaillait pas ailleurs, parce que dans notre profession, c'est assez facile, ça. Il refuse de venir travailler chez moi, mais il travaille ailleurs. On se présente au moins au travail. Je n'ai jamais vu.
Vous avez fait appel au détective parce que vous vous sentiez impuissant face à cette situation.
Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Voilà, maintenant, on a quand même des preuves où on peut se défendre. Il travaille ailleurs, alors il va falloir continuer notre démarche pour le licencier.
Pour obtenir des preuves, des photos, des vidéos, constituer un dossier en vue d'un licenciement, ce restaurateur a déboursé environ 2000 euros pour 2 jours de filature.
Les détectives privés sont donc appelés pour des arrêts maladie louches, des abandons de poste douteux, mais ils sont sollicités aussi par des compagnie d'assurance.
Absolument, et certains détectives sont même spécialisés. Élie Quenet est à la tête de la plus ancienne agence de France, Dubly Détective. Présidente du syndicat de la profession, elle travaille pour les plus grandes compagnies d'assurance.
Nous pouvons faire du recueil de témoignages, nous faisons des vérifications de justificatifs qui sont produits. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de fausses factures, faux contrôles techniques, faux justificatifs bancaires qui peuvent être produits aux assurances pour obtenir un remboursement indu. Pour vous donner un exemple, en 2020, uniquement concernant la branche yard, donc incendie, accident et risque divers, il y a eu plus de 38 000 faux sinistres en fait, qui ont été identifiés, notamment grâce aux investigations. Les enjeux financiers sont colossaux. On parle de plus de 400 millions, en fait. Donc notre travail est vraiment d'utilité publique.
Environ 3 000 enquêtes par an sont diligentées par ces assurances, mais le nom de ces compagnies qui font appel à des détectives privés reste un secret bien gardé.
Immersion aux côtés d'un détective privé dans sa vie quotidienne. Vous avez compris qu'ils sont désormais des spécialistes des arrêts maladie ou des fraudes à l'assurance. Merci Mourad Djabari.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h26, donc grand temps de retrouver notre pépite musicale. Bonjour Anthony Martin.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors un document pour commencer.
Ils sont venus nous voir dans un rythme de corde. Et puis sur le trottoir, on rassemblait la horde, les beatniks.
Les beatniks ?
Les beatniks.
Non, les beatniks.
Et celui qui chantait les beatniks, c'est Michel Sardou. Chanson de son deuxième 45 tours sorti avant les Ricains. Il avait 19 ans. C'est le moment où Eddie Barclay lui a dit « Vous n'êtes pas fait pour ce métier. Non. Il ne faut pas tout le temps avoir du pif. » C'est l'animateur Patrice Lafont qui lui avait écrit les beatniks.
Ah, ben voilà.
Ils prenaient des cours de théâtre ensemble à l'époque. Michel Sardou a 75 ans aujourd'hui. Il est né un 26 janvier. Mm-hmm. Alors pas sûr que ça le fasse sourire, il n'aime pas ça, mais on lui souhaite quand même un bon anniversaire.
Oui.
Et parmi ses chansons peu connues, il y a un titre visionnaire. En 1978, sur une musique de l'italien Toto Cutugno, Sardou signait un texte rempli d'humeur et d'humour dans lequel il disait « Eh ben, l'an 2000, on dépassera le seuil des 6 milliards d'habitants sur Terre. » C'est exactement ce qui s'est passé. Mm-hmm. Sardou fait son Sardou, donc il s'arrête pas là, il s'en prend aux Français, il convoque la planète. C'est notre pépite du jour. Cette chanson collector de Michel Sardou s'appelle vraiment 6 milliards 900 millions 980 000.
Ce n'est qu'une information. En l'an 2000, nous serons 6 milliards 900 millions 980 000. Ça fera plus de génies, quelques abrutis aussi. 6 milliards 900 millions 980 000. Un bon milliard de Chinois, 100 millions de Zaïrois. Mais j'aimerais que quelqu'un vienne m'expliquer pourquoi nous les champions de l'amour, nous en resterons toujours à n'avoir seulement que 50 millions de Gaulois. Viens, couchons-nous, aimons-nous, peuplons-la. L'Aveyron sera un désert. 6 milliards 900 millions, ça fait si le compte est bon. Un peu plus de 3 femmes et demi pour un garçon. Je vous laisse imaginer les soirées qu'on va passer. Mais faudrait pas que les Français ne soient pas qualifiés.
Bon alors voilà, c'est du Sardou, 100% Sardou.
C'est pas vrai.
Couchons-nous, peuplons la Lozère, ou alors l'Aveyron sera un désert.
Formidable.
Autrement dit, bah pourquoi cette sous-production dans notre production, hein ? C'est du Sardou en 78, donc c'était un des titres de son album Je vole, à classer dans la thématique Sardou, la France et son déclin. On approche les 68 millions d'habitants maintenant en France, donc
oui,
on a bien bossé
bien.
Quand même.
Rendez-vous en tout cas avec lui et Pascal Pro dès 13h dans les auditeurs ont la parole. N'hésitez pas à dialoguer avec Michel Sardou, ce sera par définition un grand moment. Merci Anthony, on se retrouve demain pour une nouvelle pépite et à tout moment en podcast ou sur rtl.fr. Dans un instant, Laurent Ruquier et Louis Bodin. A tout de suite, Louis.
Oui.
Notre rendez-vous avec Laurent Ruquier et les grosses têtes chaque matin avant de les retrouver de 15h30 à 18h. On parle foire au vin ce matin.
Vous faites les foires à vin, vous, monsieur de maison.
Je pense qu'il ne s'attendait pas à cette question.
La réputation tout de suite.
Bien sûr.
Non, c'est septembre.
Ah, c'est septembre.
C'est septembre, exactement. Ah, ouais. Les fêtes, François Berléand, on prend notre caddie et puis on remplit.
Ils sont mignons.
Et justement, est-ce que votre papa vous a laissé une cave alors, Michel ?
Magnifique cave.
Sérieux ?
Sérieux.
Il n'avait pas tout bu ?
Et ma grand-mère, qui n'y connaissait rien en vin, disait « Faut aller chercher la bouteille à la cave. Prends ça, lui, de la poussière, parce qu'elles sont trop vieilles.
C'est mignon.
Et vous, vous consommez tout de suite ou vous avez une belle cave ?
Alors moi, je suis à flux tendu.
À flux tendu. Donc, il n'y a pas de réserve.
Il n'y a pas de vieillissement, il n'y a pas de poussière.
On n'a pas le temps. On n'a pas,
pas le temps.
Vous buvez pas, hein, monsieur.
C'est en cubis, moi.
Et c'est direct.
Est-ce que vous vouliez savoir ?
Mais ça passe même pas par le verre. Hein. C'est
la
direct le cubis.
Le seul tonneau qui est à la maison, c'est vous.
On les retrouve dès 15h30, mais nous avons tout de suite rendez-vous avec vous, Louis Baudin, et ce froid qui s'installe.
Exactement. Enfin, je vais répéter ce que je disais hier. Beaucoup de nuages ce matin dans la moitié nord, dans la vallée de la Garonne, quelques brouillards. Bon, là, il y en a un petit peu moins qu'hier.
Oui.
Tout ça devrait peut-être se lever cet après-midi. On sera peut-être compliqué au nord de la Loire et dans le nord-est, plus facile ailleurs. Quelques nuages dans la vallée de la Garonne. Puis côté température, vous l'avez dit, ça reste hivernal. Dégelé quasiment partout en ce moment. Et cet après-midi, 2 à 4 degrés seulement dans la moitié nord, 4 à 7 en bord de mer, 8 à 11 degrés dans la moitié sud et jusqu'à 15 près de la Méditerranée.
Merci beaucoup Louis. RTL, il est 7h31.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mercredi 26 janvier 2022. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et l'affaire Orpea devient presque une affaire d'État. Le directeur général est convoqué aujourd'hui chez la ministre de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, après les révélations du livre Les Fossoyeurs. On y découvre un système où la rentabilité l'emporte sur tout le reste, quitte à rationner la nourriture ou les protections urinaires. Pour l'instant, Orpea dément fermement. En attendant, cette affaire repose la question de la prise en charge de nos aînés. L'année dernière, le 3977 a reçu environ 7000 alertes pour maltraitance. Écoutez, Pierre Tchernikov, il est le président de cette plateforme d'écoute.
La majorité des situations de maltraitance, ce sont ce qu'on appelle des négligences. Le fait que les toilettes sont faites trop rapidement, trop brutalement. Quelqu'un qui devrait être aidé pour être assis à son fauteuil et qui ne l'est pas. Et ça, dans l'immense majorité des cas, c'est que les professionnels sont placés dans une situation où ils ne peuvent pas faire mieux que ce qu'ils font. Puis il y a des situation gravissime qui menace gravement la santé. Il n'y a pas à tourner autour du pot. C'est un signalement au procureur dans les meilleurs délais. Il n'y a aucun doute là-dessus.
Un propos recueilli par Sophie Jousselin.
Un hommage sera rendu aujourd'hui aux Invalides, au brigadier Alexandre Martin.
Hommage à huis clos dans la cour d'honneur. Ce jeune militaire de 24 ans est décédé samedi dernier au Mali dans une attaque sur la base militaire de Gao. Sa maman, Sylvie, témoignait hier dans RTL Midi.
C'était un héros. Enfin, c'était sa vie, l'armée était sa vie. Il était très conscient, mais il disait toujours « Maman, t'inquiète pas, de toute façon, c'est ma vie et tu m'empêcheras jamais ».
Alexandre est le 53e soldat français tué depuis l'engagement de la France au Sahel. C'est un combat utile, d'après vous ?
Moi, je pense que non. Ça envoyait l'armée au casse-pipe, quoi. Et là, j'avais qu'une hâte que ça s'arrête.
Vous aviez hâte qu'il rentre ?
Ah oui.
Un témoignage très émouvant recueilli par Amandine Bégaud. L'hommage national, ce sera demain dans le Var. Alexandre Martin appartenait en effet au 54e régiment d'artillerie de hier. Le procès d'un sympathisant de l'ultra-droite s'ouvre aujourd'hui à Paris. Cet ancien militaire de 38 ans comparé pour des projets d'attaque contre la communauté juive de Limoges. Selon les informations d'RTL, 1300 militants d'ultra-droite sont désormais fichés S en France. Un chiffre en nette augmentation depuis 2 ans. Une grève générale aujourd'hui chez EDF. Les salariés et la direction sont vent debout contre la mesure prise par le gouvernement pour endiguer la hausse des tarifs. L'entreprise est obligée de vendre à ses concurrents plus d'électricité nucléaire à bas prix. Une perte de 8 milliards d'euros selon EDF. Écoutez Philippe Page-Lemerour de la CGT.
Le choix qui est aujourd'hui fait par le gouvernement consiste en un braquage en bande organisée sur la production d'EDF. Ces mesures sont absolument insupportables pour le personnel qui refuse catégoriquement de travailler pour la concurrence. Ce qui plus est à bas prix. Le service public dans ce pays n'est pas l'esclave des sociétés commercialisatrices d'électricité qui n'ont qu'un objet, c'est de faire du fric sans rien produire.
Un propos recueilli par Éric Vanni. Le gouvernement qui tente aussi de contrer la hausse des prix du carburant. Après le chèque inflation, le barème du forfait kilométrique est rehaussé de 10%. 2,5 millions de foyers sont concernés, ceux qui payent les impôts et déclarent leurs frais professionnels, les gros rouleurs, comme on dit. Une nouvelle réunion aujourd'hui à Paris sur la crise ukrainienne. Réunion entre la France, l'Allemagne, l'Ukraine et la Russie. Emmanuel Macron doit aussi s'entretenir avec Vladimir Poutine vendredi par téléphone. En tennis, pas de nouvel exploit pour Alizé Cornet. La Française a été balayée par l'Américaine Danielle Collins en quart de finale de l'Open d'Australie. 7-5, 6-1, elle était la dernière tricolore en lice. À l'Euro de handball, la France joue ce soir sa qualification pour les demi-finales face au Danemark. Les Bleus n'ont pas droit à l'erreur, mais un nul suffirait à leur bonheur. Puis il y a aussi du foot. Ce soir, Angers-Saint-Etienne en match en retard de la 20e journée de Ligue 1. Les Verts sont lanterne rouge. Ils restent sur 7 défaites consécutives.
On l'a appris hier soir, Isabelle. Hein. Florent Pagny est obligé d'interrompre sa tournée des 60 ans.
Oui, le chanteur révèle qu'il souffre d'un cancer du poumon. Il doit subir 6 mois de chimio et radiothérapie. Il promet que tous les billets seront remboursés. La tournée courait jusqu'en mois de juillet. Florent Pagny précise aussi qu'on le verra bien dans le fauteuil rouge de The Voice à partir du 12 février puisque l'émission a déjà été enregistrée. Et puis on parle aussi de Johnny Hallyday ce matin. RTL vous dévoile en exclusivité une chanson inédite de l'idole des jeunes. Un titre de 1968, Le Spécialiste, inspiré tirée d'un film dans lequel Johnny venait de tourner.
Oui.
Explication de Xavier Perrault, le responsable du catalogue Hallyday chez Universal.
Je pensais, moi, que ce titre-là était perdu à jamais. Les bandes qui sont archivées chez nous sont pas toujours très bien renseignées à la base, mais c'est un vrai travail d'archéologie, en fait. Il y avait très peu d'indications, si ce n'est le spécialiste. Il n'y avait pas le nom de Johnny. Bah, c'est toujours génial de retrouver une archive qui dort depuis si longtemps dans nos murs.
Il marche vers le soleil, vers sa destinée. Il marche vers sa mort, vers sa vérité. Il marche dans le sang, ses potes l'emportent. Il marche vers l'enfer, le diable l'emporte.
Un titre qu'on retrouvera en streaming dans deux jours. Ce sera disponible.
Merci Isabelle Choquet. On se retrouve à 8h35 pour France 2022. Notre rendez-vous avec les experts de la rédaction avec cette question. La France a-t-elle abandonné nos aînés après les révélations sur les mauvais traitements dans les EHPAD ? À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Bonjour François Langlais.
Bonjour Yves.
Lisbeth, qu'est-ce qui se passe ? Vous nous emmenez à la ferme ce matin ?
Oui, vous allez me dire un crâne d'œuf chez les poules, c'est pas très étonnant.
Non,
mais mettez vos bottes et je vous raconte dans un instant les secrets de la production de cet ovoïde familier, l'œuf. Les Français en mangent quasiment un par jour.
Ouh là là, à tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h38, Langlaico avec vous, François Langlais. On va vous retrouver dans votre poulailler.
Oui, bonjour à tous.
Vous voilà donc parti sur la piste d'un des produits alimentaires les plus familiers qui soit, l'œuf.
Eh oui, j'ai passé la journée dans l'une des plus grandes exploitations avicoles d'Île-de-France, près de Provins, la ferme de Montglat. Ouais. 200 000 poules élevées ici, qui produisent presque autant d'œufs quotidiens, parce que 100 poules pondent chaque jour 96 œufs. Les poules arrivent ici à 18 semaines, et puis elles travaillent, et elles partent à la réforme. À 72 semaines, la réforme, bah, c'est la retraite de la pondeuse. Retraite définitive, hein, puisque les volatiles sont alors abattus, après avoir fabriqué 315 coquilles en moyenne dans leur vie. Montglat, c'est une exploitation prospère, tenue par la famille Philippe, 3e et 4e génération après les fondateurs, qui ont accompagné l'extraordinaire transformation du marché.
Alors, pourquoi transformation ? Pour un œuf, il n'y a pas vraiment de saut technologique, non ?
Eh ben, détrompez-vous.
Ah oui.
Les préférences des consommateurs que nous sommes n'ont plus rien à voir ce qu'elles étaient, pardon. Ouais. 65% des produits consommés en France sont désormais ce qu'on appelle des œufs alternatifs. Des œufs bio, des œufs de poule élevés en plein air ou élevés au sol et non plus en cage. Mmh. Il y a 15 ans, les pondeuses vivaient surtout dans des cages, d'immenses hangars aménagés sur 2 étages avec plusieurs dizaines de milliers d'animaux.
Oui.
Aujourd'hui, les modes de production sont plus attentifs au bien-être animal. 4 mètres carrés pour une poule, qui n'en demande pas tant, et puis à l'environnement. Et c'est vrai qu'en ce moment, les poules ne profitent guère de cette liberté parce qu'elles aussi sont en confinement dans toute la France à cause de la grippe aviaire.
Mais comment risquent-elles d'être contaminées ?
À cause des oiseaux migrateurs porteurs de la grippe, ils survolent notre ciel, inutile de dire qu'ils n'ont pas de passe vaccinale. Du coup, les poules restent à l'intérieur.
Mais ça veut dire que la production d'œufs est très surveillée ?
À très surveiller. Il y a une charte sanitaire draconienne. L'entreprise de conditionnement d'œufs CPDO, qui appartient à une autre branche de la famille Philippe et qui est le numéro 2 français du secteur, a ainsi subi 18 visites de certification sur la seule année dernière. C'est considérable. Et puis, de nouveaux labels apparaissent avec leurs normes spécifiques. Élevage avec jardin d'hiver, par exemple, qui nécessite autant d'aménagement. Le jardin d'hiver, c'est quand même 500 000 euros d'investissement.
Dans un monde agricole qui souffre de la concurrence, cette filière est-elle compétitive ?
Écoutez, c'est un îlot de relative tranquillité grâce à la charte sanitaire française qui protège le marché français des importations polonaises, par exemple, moins qualitatives. La France est le champion européen avec plus de 15 milliards d'œufs produits en 2020. Et ça en fait quand même.
Ah oui, ça fait un choc.
Et un solde commercial excédentaire, j'allais dire cocorico.
Oui.
Pour autant, c'est quand même un métier à faible marge qui nécessite de lourds investissements. Du coup, les fermiers de Montglat se sont diversifiés. Ils ont leur propre usine pour fabriquer les aliments, 70% du coût de production, et ils se sont lancés dans la production de biogaz avec la méthanisation. De vrais entrepreneurs, avec toujours un œil sur la basse-cour et l'autre sur le cours des céréales à Chicago.
Passionnant. Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve comme chaque jour sur l'application mobile RTL. Il est 7h41, bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
Jennifer de Harojo, c'est la maman de Maëlys. Elle publie justement un livre en hommage à sa fille qui s'intitule Maëlys chez Robert Laffont, à 5 jours du procès de Nordal Lelandais.
A tout de suite avec Jennifer de Harojo sur RTL.
RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Il est 7h43, très bonne journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin la mère de Maëlys, Jennifer de Harojo.
Bonjour Jennifer.
Bonjour Alba.
Et d'abord merci pour votre courage parce que peu de gens peuvent se mettre à votre place. Maëlys, c'est le titre du livre que vous publiez aux éditions Robert Laffont, écrit avec Tiphaine Piogé. Un livre qui sort alors que s'ouvre lundi devant les assises de l'Isère le procès de Nordal Lelandais, jugé du 31 janvier au 18 février pour l'enlèvement et le meurtre de votre fille, le 27 août 2017 à Pont-de-Beauvoisin en Isère, où vous séjourniez à l'occasion du mariage de votre cousin. Ce livre, Jennifer, vous l'avez écrit pour raconter Maëlys, pour dire quel enfant elle était ?
Moi, j'ai écrit ce livre pour parler de Maëlys, pour que tout le monde la connaisse, parce qu'on parle que de son assassin. Et on ne parle pas de Maëlys. Dans les journaux, dans les médias, il y a toujours sa photo de lui. Et à côté, il y a ma fille. Et ça m'a profondément attristée que ce ne soit pas Maëlys qui soit plus mis en valeur que lui. Donc c'est pour ça que j'ai voulu parler de Maëlys. Et puis qu'on connaisse sa personnalité, comment était Maëlys.
Quelle petite fille elle était.
Elle était pleine de vie, drôle. Elle aimait bien nous faire des petites blagues. Nous taquiner sur notre bronzage, sur notre...
Oui, parce qu'elle était plutôt...
Elle était bien bronzée, ses origines portugaises qui ressortaient. Et elle était bien bronzée, donc à moi, elle me disait « Toi, t'es toute blanche, on dirait que t'es jamais allée au soleil.
» Elle avait du caractère.
Oui, elle avait son caractère, elle savait ce qu'elle voulait.
Voilà. Vous écrivez dans le livre, elle aimait les chapeaux et les chiens.
Oui.
Et elle mettait des chapeaux sur les chiens.
Oui, c'était son truc. Pour Noël, elle leur mettait les petits chapeaux de Noël. Elle est déguisée en Père Noël, et puis quand elle allait se balader, ou elle mettait ses chapeaux de cow-boy, elle aimait bien mettre les chapeaux de cow-boy.
Jennifer, dans ce livre, vous revenez bien sûr sur les événements terribles que vous avez vécus, vous revenez sur la fête de ce mariage, et Maëlys qui échange avec un inconnu avec lequel elle parle de chien. Elle vous en parle, elle vous demande de venir, vous l'accompagnez, Maëlys, jusqu'à la table où se trouve cet inconnu. Vous dites, je ne suis pas dans la suspicion, mais je me suis quand même levée pour l'accompagner. Est-ce que ça veut dire que vous avez une forme d'intuition ?
Oui, je pense que j'ai une intuition maternelle, oui. Je me dis, déjà, c'est Maëlys qui me dit de venir voir avec elle. Puis si elle me pose la question, si elle peut aller voir aussi les chiens. Donc au début, j'avais pas trop... Je me suis dit, qui c'est qui emmène des chiens à un mariage ? Je trouvais ça bizarre. Puis en fait, non, c'était sur son téléphone portable de l'autre. Donc je suis allée avec Maëlys et puis elle lui a demandé s'il pouvait lui montrer les chiens en photo, donc c'est ce qu'elle a fait devant moi. À moi, il ne m'a pas plus parlé que ça. Et à Maëlys, il lui a demandé après si elle avait des chiens et si, qu'est-ce que c'était comme race de chien. Donc Maëlys lui a répondu. Et puis après, moi, je suis repartie. Et puis Maëlys est repartie jouer, quelques secondes plus tard.
Voilà. Jusqu'au moment où vous vous demandez où elle est ?
Ça, c'est un peu plus tard, vers 3h du matin, quand on était dehors en train de prendre l'air. On rentre et puis c'était une musique que Maëlys elle aimait bien, ça s'appelait Comme Jamais de Gibbs. Mais je trouve bizarre que je pensais que Maëlys était avec ma nièce en train de danser. Et en fait, elle n'était pas à l'intérieur quand on est rentré. Alors je me dis, on jette un coup d'œil aux alentours, puis on ne la voit pas sur le moment. C'est là que je commence à la chercher. Je trouve ça bizarre que. Donc du coup, je vais dehors. Après, on l'a appelée de partout, on a cherché. On a fait un appel au micro, au DJ, pour qu'il dise son prénom. On se dit, elle allait peut-être s'endormir, mais elle nous l'aurait dit. Après, je me rappelle justement qu'elle a discuté avec lui peu de temps avant. Donc je me dis, peut-être qu'elle est encore avec lui, en train de parler. Et lui, je le cherche aussi en même temps que ma fille.
Et vous le croisez d'ailleurs à un moment.
Et je le croise pas tout de suite, parce que j'ai cherché déjà au moins une demi-heure avant de le retrouver, parce qu'il n'était pas là. Et il revient du parking, il était dehors. Et je lui demande s'il a vu Maëlys. Puis il me dit non, je ne l'ai pas vu. Sur un ton blasé, comme si... ça ne le touchait pas et comme si, limite, il ne la connaissait pas alors qu'il lui avait parlé peu de temps avant.
Vous dites il ou l'autre, c'est-à-dire que vous avez décidé de ne jamais nommer...
Non, parce que je trouve qu'il ne mérite pas d'avoir que je l'appelle par son nom.
Jennifer, Maëlys est déclarée disparue. Et puis 6 mois, c'est le temps en fait qui s'écoule entre la disparition et la découverte de son corps en février 2018. 6 mois qui ont été rythmés par les annonces du procureur, le rendez-vous chez la juge d'instruction, les coups de fil des enquêteurs. Comment on supporte 6 mois sans savoir?
On ne supporte pas. On a toujours un espoir déjà parce qu'on se dit où c'est qu'elle est. On veut la retrouver. On pense qu'elle est encore vivante. On a toujours cet infime espoir qui est en nous, quoi. Plus les mois passent, plus l'espoir se minimise. Et puis après, quand on a les rendez-vous chez la juge d'instruction pour nous dire en février qu'ils ont retrouvé une goutte de sang dans le coffre de sa voiture, là on se dit qu'est-ce qu'il a pu faire à ma fille ? Qu'est-ce qu'il a pu lui arriver ?
Vous dites que pendant cette longue période, les souvenirs sont un puissant anesthésiant et qu'ils vous aident à tenir. Vous plongez dans les photos ?
Oui, c'est ce que je fais toute la journée. Je fais que de regarder mon téléphone portable et puis il y a toutes les photos, les vidéos qu'on avait fait quand on était tous ensemble, qu'elle faisait avec sa sœur.
Pendant tout ce temps, vous enquêtez de votre côté, vous consultez un voyant, vous recevez du courrier ?
Oui. Après, on devient un peu paranoïaque.
Vous avez un chapitre qui s'intitule « Devenir fou ».
Oui.
On devient fou, on lutte pour ne pas devenir fou.
On essaye de plein de monde de nous interpelle pour nous dire « Elle a été vue à Strasbourg, elle a été vue à Marseille, elle était dans une gare ». Il y en a qui nous envoient des vidéos sur Messenger, sur. Et puis, c'est vrai qu'elle lui ressemble, après. Mais c'est pas notre fille, on sait bien que c'est pas elle. Et puis, après, nous, on demande... On a un intermédiaire qui est un enquêteur de... la gendarmerie de la section de recherche. On lui envoie tout le temps tout ce qu'on retrouve, puis pour qu'il cherche, parce qu'on a peur de passer à côté de quelque chose. On se dit, peut-être que c'est Maëlys, et on s'accroche à tout, en fait.
Comment ça se passe avec Colline, votre grande fille, qui vous a accompagnée ici aujourd'hui, parce que pendant tout ce temps, vous êtes la maman de Maëlys.
Oui.
Et on ne dit pas suffisamment que vous êtes aussi la maman de Colline.
Après, elle a compris que c'est normal qu'on parle beaucoup de Maëlys, parce que c'est elle qui a disparu et qu'on ne sait pas où elle est. Mais ça a été dur pour elle, parce que elle aussi, je suis sa maman. Et j'ai l'impression de ne pas avoir été assez présente pour elle au début de la disparition de Maëlys.
Et comment vous vivez cela avec Joachim, votre compagnon à l'époque, le papa de Maëlys, dont vous êtes séparés aujourd'hui ? Vous avez l'impression de vivre côte à côte, mais sans plus rien échanger ?
Oui, il n'y a plus de communication, c'est plus pareil. Le climat est tellement lourd... Après, on ne sort plus, on n'a plus envie d'aller voir les amis, on n'invite plus personne.
Mais vous racontez que vous avez essayé de faire un bébé.
Oui, et on a essayé, peu de temps après. On s'est dit qu'on voulait, justement, parce que dans la maison, il n'y avait plus de vie. Et on voulait remettre un peu de bonheur et de joie dans cette maison qui était toute triste sans Maëlys. On n'était plus le clan à quatre comme on était avant. Et malheureusement, ça n'a pas tenu. J'ai fait deux fausses couches qui devaient naître à chaque fois au mois de novembre, comme Maëlys. Donc après, ça nous a encore plus, pour ma part, et puis même pour Joachim, ça nous a encore plus attristés. On a l'impression qu'on a tiré que la mort vers nous. Ça nous a éloignés petit à petit. Et puis, donc j'ai décidé de partir, de changer de ville, pour essayer de surmonter tout ça, parce que j'ai l'impression que j'allais m'effondrer. Et je voulais essayer de remonter la tête hors de l'eau, quoi.
Vous réussissez ?
Je prends la force dans... Je pense que c'est Maëlys qui me donne cette force, parce que je sais qu'elle n'aimerait pas qu'on soit abattu et attristé. Elle voudrait qu'on se batte pour elle, pour que la justice lui soit rendue. Donc j'essaye, puis j'ai Colline aussi qui m'aide par son soutien, et puis je vais être là pour elle aussi.
Le livret, il a été aussi écrit pour supporter le procès qui s'ouvre lundi.
Oui, aussi.
Qu'est-ce que vous en attendez ?
Déjà, je voudrais une sanction qui soit lourde, au-delà de tout ce qui est de toutes les souffrances à la hauteur des souffrances que Maëlys a eues, et qu'il ne fasse plus jamais de mal à personne, surtout. C'est surtout ça. Après, j'attends des réponses sur qui disent la vérité, mais ça, je ne sais pas si je vais y avoir droit. Comme qu'il arrête de dire que Maëlys est montée dans sa voiture d'elle-même, parce que j'ai ma fille, je l'avais bien mis en garde des inconnus, et puis en pleine nuit. Enfin, c'était pas du tout le style de Maëlys de monter toute seule dans une voiture en pleine nuit dans un endroit qu'elle connaît pas, avec quelqu'un qu'elle connaît pas, pour aller voir des chiens alors qu'elle en a déjà quatre, il y en a déjà trois à la maison. C'est ça, je voudrais qu'ils disent la vérité, puis c'est les derniers mots que Maëlys a eu aussi. J'aimerais savoir ce qu'elle a dit, savoir le vrai du faux dans tout ce qu'il va raconter. Ça, c'est, on verra comment ça se passe.
Vous n'aimez pas l'expression « faire son deuil » ? Vous dites que vous avez fait surtout le deuil du bonheur.
Du bonheur, oui, c'est ça. Parce que faire son deuil, pour moi, ça veut dire oublier, passer à autre chose. C'est ce sentiment que j'ai. Et j'ai plus fait le deuil du bonheur. qu'on était une famille soudée, qu'on faisait plein de choses tous ensemble, à quatre, et que là, ça sera plus jamais comme ça. On faisait plein de sorties, on allait en voyage, on a fait plein de choses tous ensemble. Et quand Mama Ellis nous a été enlevée, ben ça a tout brisé ce clan qu'on était, et le bonheur qu'on avait d'être une famille unie et dans l'amour, ben ça a tout volé en éclats.
À la fin du livre, vous publiez deux lettres pour Maëlys. Hein. Ça s'appelle « Lettre à notre fille » et à celle de son papa, et puis la vôtre.
Oui.
Où vous décrivez une Maëlys généreuse au grand cœur. Et une partie des droits de ce livre sera reversée à l'association Les Petits Princes.
Oui.
Pour que de nombreux enfants puissent réaliser leurs rêves.
Oui. Oui, ça me tenait à cœur. Je pense que ça aurait plu aussi à Maëlys, surtout. Comme c'est un livre que j'ai écrit pour elle, pour qu'on garde en mémoire qui elle était. Parce qu'elle avait plein de choses, plein de rêves à réaliser. Ça lui aurait fait plaisir que d'autres enfants qui sont dans le... qui sont dans la souffrance ou qui sont malades, qui puissent réaliser leurs rêves.
Merci beaucoup, Jennifer.
Merci à vous.
Ça s'appelle Maëlys, bien sûr. C'est chez Robert Laffont. C'est poignant, c'est émouvant. Et on vous remercie pour votre courage,
merci à
pour
vous.
Votre force de continuer pour Colline.
Oui.
Merci
bien.
Pour tout.
Merci.
Maëlys, par Jennifer de Harojo, co-écrit avec notre consoeur Tiphaine Piogé, paraît donc demain, je vous le rappelle, aux éditions Robert Laffont. Merci à vous deux, comme chaque jour après ce témoignage si particulier. L'intégralité de cet entretien est à retrouver sur notre application RTL et nous serons avec Philippe Cavrivière dans un tout petit instant.
Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.
RTL, l'œil de Philippe Cavrivière.
Il est 7h55. Philippe, bonjour.
Bonjour.
Nous tournons évidemment une page après le témoignage extrêmement émouvant que nous venons d'entendre. Et vous nous emmenez en Ukraine. Poutine va-t-il envahir le pays ?
Non. Possible, c'est très possible. On n'a même pas fini avec l'épidémie planétaire, qu'on est déjà peut-être sur la Troisième Guerre mondiale.
C'est bien.
Ça s'annonce bien, 2022, dis donc. Et on n'est que le 26 janvier. Oui. Si la planète est toujours entière en fin d'année, on peut tous s'estimer très heureux. Alors Emmanuel Macron a prévu de s'entretenir avec Poupoule Botoxée, la Sylvie Vartan de Vladivostok. Je dis ça parce qu'il n'écoute pas Poutine. Alors, Manu... Manu, si tu nous entends, évite le « je t'emmerde hein. ». C'est pas Francis Lalanne en face, hein. Non. C'est Poutine. Si tu veux pas te retrouver les deux guiboles dans du béton, fais pas le con. Puis nous, avec Yves, Louis, oui, Dominique, Cyprien, on n'a aucune envie de se retrouver en treillis à Saint-Pétersbourg début février.
Oh non, si on peut éviter, ce serait bien. Alors, de son côté, Joe Biden a mis la pression sur Moscou.
Oula. Joe Biden, le président des États Unis d'Amérique, a montré les dents, enfin le dentier. Oui. Il a tout de suite appelé Lénine. Oui, bah, il s'est trompé de Vladimir, ça arrive. Oh. On lui a appris que Lénine était mort, il a voulu appeler Brezhnev, bref, ça a pris un temps fou cette histoire. Il est belliqueux en ce moment, le Joe Biden. Il a traité un journaliste de « stupid son of a bitch », ce qui se traduit par « sacripant » ou « petit paltoquet »,
c'est la version
selon les régions.
Oui.
Finalement, Biden, c'est Trump en couche confiance. Si c'était pour avoir le même que Trump, autant garder l'original. Au moins, il y avait Mélanie en déco à côté.
C'est sûr. Alors, revenons en France. Le gouvernement a donc décidé de rehausser le barème de l'indemnité kilométrique de 10% pour faire face à la hausse du prix de l'essence.
J'en parlais ce matin avec Yvan Rioufol et Eric Zemmour. Oui. Encore un coup des Arabes. Ben, ça vient de chez eux quand même, l'essence. Même quand ils restent chez eux, ils nous pourrissent la vie. Alors Jean Castex est venu expliquer en hurlant les aides à l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un a la télécommande pour Castex? Parce qu'il est réglé trop fort au niveau du volume, Jeannot. J'ai demandé de modifier le barème kilométrique. C'est pas plus intelligent quand tu gueules, Jeannot. Alors ça a l'air compliqué, pas du tout. Cette aide est très simple.
Oh oui.
Vous pouvez déduire donc 10% d'un montant dépendant de la puissance fiscale de votre véhicule et du nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel, non indexable bien sûr sur le TICPE, taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, en fonction du montant de la facture du dernier contrôle technique, si votre véhicule a été immatriculé avant le mars 2016 dans les Deux-Sèvres. Voilà, en gros. Hein. Donc on sait que personne ne va rien déduire. Je précise que l'indemnité kilométrique, ça concerne les gens qui travaillent.
Oui.
En même temps, les chômeurs, ça conduit pas. Un chômeur, ça reste en slip à la maison à regarder des appareils à raquettes en promotion de téléachat. C'est ça.
Sans transition, on passe de l'appareil à raquettes à François Hollande.
Oui.
Il veut revenir en politique et il l'a dit à des lycéens.
Oui, Sarkozy, lui, il fait des conférences à 100 000. Mmh. Hollande, il fait des exposés gratos à des lycéens.
Et de gauche.
Toujours ce sens du business. C'est là qu'on voit que son ennemi, c'est vraiment la finance. Ah oui. Il est réglo quand même. Il a déclaré
Ça ne va pas bien pour la gauche. Bien joué, commissaire Hollande. Encore une enquête rondement menée. Il a une sacrée analyse politique, le saligo, ça, tu vois. On ne peut pas lui enlever.
Est-ce que vous comprenez, Philippe, l'envie de François Hollande de revenir en politique ?
Bien sûr, Yves. Le pauvre François, ça fait 5 ans qu'il signe des bouquins dans des hauts champs entre la poissonnière et le stand de boudin créole. Chère cliente, nous vous informons que le pâté en croûte Monique Rano est en promotion à 1,85€ les 100 grammes au Rio Charcuterie. Un rayon où vous trouverez également François Hollande, l'ancien président qui vous dédicacera son livre à côté du rayon flageolet. C'est pas une vie, François.
Bon, Philippe, vous vouliez dire un mot sur la disparition du couturier Thierry Mugler ?
Oui, il est la preuve qu'on peut être une référence du style en s'appelant Thierry. Et ça, c'est pas simple, au départ. Génie de la mode. Après, niveau parfum, c'est plus discutable.
Oui, je suis d'accord.
Il a créé Angel au patchouli. Ouais. Alors, ouais. Bon, on sent qu'il avait le nez bouché sur la fin. Dans mon sud, Angel, oui. C'est le parfum préféré des cagoles. Hein.
Oui.
On a l'impression que c'est une recette de cuisine de Cyril Lignac, un peu, la cagole au patchouli. Alors aujourd'hui, je vous propose une recette toute simple, la cagole au patchouli. Alors, vous prenez une belle cagole, oui. Alors, entre 50 et 75 kilos, faut de la matière. Alors elle peut être barman, échampouineuse, on s'en fout. Vous la passez sous l'eau, Yves, important, hein, pour raffermir les chairs, toujours. Comme le saumon de l'autre jour, et vous l'arrosez généreusement d'Angel au patchouli de Mugler. Et là, vous la servez avec du spritz et des olives en terrasse, un apéro dînatoire au Casar à Fréjus. Bon appétit, à demain Yves.
Merci, à demain pour une nouvelle recette
de Cyril Lignac. C'est le cuisinier content, Yves. C'est Cyril Lignac content, toujours.
Ce qui est très important dans les cagoles, c'est les pilotis, ne l'oubliez jamais.
Ah oui,
bah oui, les chaussures de 15 cm.
Ah, c'est vrai, c'est vrai. Bah,
évidemment.
Sinon, c'est pas la vraie.
Je vous ferai écouter une petite chanson là-dessus. Bon, alors la météo rapidement, allez.
Oui, bah dans le sud, là justement, il y aura du soleil hein, près de la Méditerranée. Il y en aura également sur les reliefs. Ailleurs, beaucoup de nuages, quelques brouillards ce matin dans la moitié nord, dans la vallée de la Garonne. Pas sûr que ça se lève cet après-midi, notamment au nord de la Loire, Lorraine, Alsace. Là, ça risque de rester gris un peu comme hier. Ailleurs, quand même, il y a l'espoir peut-être hein, d'avoir quelques éclaircies du Val-de-Loire à la région Rhône-Alpes. Soleil dans les autres régions et notamment en montagne. Côté température, ça gèle partout en ce moment. 2 à 4 degrés cet après-midi dans la moitié nord, ça reste très froid. 4 à 7 en bord de mer, 8 à 11 degrés dans la moitié sud et jusqu'à 15 degrés toujours près de la Méditerranée.
Merci beaucoup Louis Baudin. RTL, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
C'est Florent Pagny qui est à la une ce matin, le chanteur qui annonce être atteint d'un cancer.
Une tumeur au poumon qui n'est pas opérable et qui oblige l'artiste à annuler la fin de sa tournée. Vous allez l'entendre dès le début de ce journal. Le directeur général d'Orpea va devoir s'expliquer, convoqué par le gouvernement après l'enquête édifiante sur les méthodes du groupe dans ses EHPAD. À suivre également notre enquête sur ces fichiers S de plus en plus nombreux dans les sphères de l'ultra-droite alors que s'ouvre aujourd'hui le procès d'un ancien militaire qui voulait s'en prendre à des juifs. La fermeté d'Emmanuel Macron face au risque d'une invasion russe de l'Ukraine, la riposte sera là, prévient le chef de l'État. Et puis l'Euro 2 handball, faux pas interdit ce soir pour les Bleus face au Danemark.
Dès la fin de ce journal, le surf de l'info avec vous Cyprien Signy.
Les 75 ans de Michel Sardou, plus actuel que jamais.
À 8h20, notre débat du jour, faut-il avoir peur de Vladimir Poutine ? Nous évoquons la question avec deux spécialistes de la Russie et de l'Ukraine. Et puis juste après France 2022, les débats de la présidentielle. Nous reviendrons justement sur le scandale des EHPAD avec cette question. A-t-on sacrifié nos vieux, nos experts maison pour évoquer ce sujet brûlant ?
RTL Matin. C'est donc par un message publié hier soir sur les réseaux sociaux que Florent Pagny a annoncé la nouvelle à son public. Ses prochains concerts sont annulés. En raison d'un problème de santé, les médecins viennent de lui diagnostiquer un cancer.
Je ne vais pas pouvoir terminer ma tournée des 60 ans. En effet, on vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse, pas très sympathique, qui ne peut pas s'opérer. Donc je dois rentrer dans un protocole de 6 mois de chimiothérapie et de rayon X. Bah, je suis désolé, mais bon, vous savez tous que dans la vie, le plus important, c'est la santé. Et quand on a un problème, il devient prioritaire.
Bonjour Steven Bellery.
Bonjour à tous.
Le chanteur a donc décidé, vous venez de l'entendre, de jouer la transparence. C'est une tumeur au poumon, elle est cancéreuse et la santé passe avant tout le reste, explique Florent Pagny, qui était en pleine tournée.
Oui, Florent Pagny, qui n'aime pas trop fêter ses anniversaires, avait choisi de le célébrer avec son public, de démarrer sa tournée le 6 novembre dernier, jour de ses 60 ans. Depuis, le chanteur avait enregistré les auditions à l'aveugle de la prochaine saison de The Voice et donné 21 concerts. Il devait reprendre la route ce soir près d'Angoulême. 39 dates restaient à son agenda, uniquement des grandes salles. Florent Pagny, star populaire de la chanson attachante, grande gueule à la liberté de penser, qui n'a jamais rien caché à son public, notamment qu'il était fumeur de cannabis depuis 35 ans. L'interprète me confiait, l'automne dernier, qu'à 60 ans, il aspirait en fait à avoir, je cite, des projets plus zen, et m'avait fait cette promesse: tant que je pourrai chanter, je chanterai. Depuis hier soir, des dizaines d'artistes ont publié des messages de soutien. Force et courage dans cette épreuve, a écrit Pascal Obispo. On est fait pour bâtir l'avenir, chante Florent Pagny dans son dernier album, paru en septembre, comme une promesse à ses fans. Et cette autre phrase: pour ne pas tomber, j'avance.
Merci beaucoup, Steven Bellery.
Le directeur général d'Orpea est donc convoqué par le gouvernement après les révélations d'un livre enquête dénonçant les méthodes du groupe leader mondial des EHPAD.
Son auteur était notre invité hier matin sur RTL. Victor Castanet a longuement raconté la manière dont le groupe privilégiait la rentabilité à outrance au détriment des résidents rationnés et laissés pour certains sans soins. Des accusations que dément le groupe Orpea, dont l'action a de nouveau plongé hier en bourse. Son directeur général aura donc l'occasion de s'expliquer puisqu'il vient d'être convoqué par la ministre chargée de l'autonomie des personnes âgées, Brigitte Bourguignon.
Si les faits sont avérés, ça me met très en colère, parce que d'abord les prix sont assez prohibitifs, et donc rogner en plus pour des questions uniquement de rentabilité serait vraiment préjudiciable. Et plus que ça, moi je pense qu'il faut vraiment qu'on vérifie si c'est un système organisé ou si ça a été une dénonciation sur un établissement donné. Vous savez, il faut toujours entendre toutes les parties dans ces moments-là, et donc nous allons travailler de manière très transparente, aussi bien avec les résidents, avec leurs familles et avec le groupe.
Et le directeur général d'Orpea devrait être entendu en début de semaine prochaine. Propos recueillis par Sébastien Rouxel. Après les variants, les sous-variants, voici BA2, sorte de petit cousin d'Omicron dont le ministre de la Santé a confirmé hier la présence en France. Il n'est pas plus dangereux qu'Omicron, a expliqué Olivier Véran, mais tout aussi contagieux. Ce qui est plus inquiétant, en revanche, c'est le nombre de contaminations. Plus de 500 000 en 24 heures. Le nombre d'hospitalisations pour Covid repasse, lui, la barre des 30 000. On n'avait pas vu ça depuis le printemps dernier. À l'étranger, le dialogue n'empêche pas de préparer la riposte. Alors que la tension continue de grimper à la frontière ukrainienne, laissant craindre une invasion russe dans les prochains jours, Emmanuel Macron s'est voulu ferme hier soir. Maintenir les discussions avec Vladimir Poutine est une chose, mais ce n'est plus aujourd'hui la seule option.
Nous préparons en parallèle la réaction commune et la riposte. S'il devait y avoir une agression, la riposte sera là et le coût sera très élevé.
Emmanuel Macron hier soir lors d'une conférence commune avec le chancelier allemand Olaf Scholz à Berlin. Une nouvelle réunion de dialogue est prévue aujourd'hui, réunissant Allemagne, France, Ukraine et Russie. Moscou, qui pour sa part a lancé hier des manœuvres militaires à la frontière ukrainienne et en Crimée, région annexée il y a 8 ans, tout en rejetant l'origine des tensions sur la politique américaine. En Russie pour RTL, Félix Grasso.
Moscou accuse les États-Unis et l'OTAN de nourrir l'escalade qui continue autour de l'Ukraine. Un discours appuyé par les chaînes de la télévision publique. Elle diffuse des images de convois de blindés américains en Roumanie qui se déplaceraient en direction de la frontière ukrainienne. Elle dénonce aussi, images à l'appui, les manœuvres qui ont lieu en Méditerranée sur le porte-avions Harry Truman. En outre, l'envoi d'armes britanniques, américaines et baltes en Ukraine inquiète le Kremlin. Son porte-parole a dit redouter que les têtes brûlées de Kiev se livrent à des provocations susceptible de faire dégénérer la situation dans les régions séparatistes du Donbass. Autant d'éléments qui font dire à Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, que Washington provoque une nouvelle exacerbation des tensions dans cette crise, après avoir annoncé dimanche l'évacuation d'Ukraine des familles de diplomates américains.
Le correspondant de RTL en Russie, Félix Grasso.
Vous venez d'entendre le président de la République, la riposte sera là et le coût sera très élevé. À 8h20, notre débat, faut-il avoir peur de Vladimir Poutine, avec deux spécialistes de la région. Dans un instant, l'ultra-droite dans le viseur des renseignements, complotistes, survivalistes, néo-nazis, la mouvance s'organise et le nombre de fichiers S explose. C'est notre enquête à suivre sur RTL, il est 8h07.
Yves Calvi, RTL Matin. RTL Matin.
8h09, la suite du journal de Dominique Tenza. Alors que le procès d'un ancien militaire soupçonné de préparer un attentat contre la communauté juive en 2020 s'ouvre aujourd'hui à Paris, la mouvance qui mêle néo-nazis et complotistes est plus que jamais dans le collimateur des services de renseignement.
Et la menace terroriste émanant des sphères de l'ultra-droite est au plus haut. 1300 militants sont désormais fichés S. C'est une information RTL et c'est l'objet ce matin de notre brigade RTL. Avec vous, Thomas Proutot, bonjour.
Bonjour.
L'ultra-droite n'a jamais paru, Thomas, aussi menaçante, aussi surveillée.
Absolument. 1300 radicaux militants radicaux sont désormais fichés S, d'après nos informations, ce qui veut dire activement suivis, notamment par les agents de la DGSI, et ce, afin de contrer toute velléité de violence. Le chiffre est en nette augmentation, car la menace s'est diversifiée. Il y a le noyau dur ancien et bien connu, constitué des groupuscules néo-nazis, identitaires ou royalistes, adeptes de la violence et des coups d'éclat, mais au grand jour, notamment dans les manifs, s'y agrège désormais une mouvance tournée vers l'action clandestine sur fond de complotisme et de défiance sanitaire, le tout porté par un climat politique favorable, souligne un ponte de l'antiterrorisme. C'est cela qui inquiète les services de renseignement.
Et est-ce que ces complotistes envisagent des attentats ?
Alors, les camps de survie se multiplient, par exemple, treillis et fusillés à la main pour s'entraîner au tir ou à la vie clandestine. Messagerie cryptée et noms de code sont couramment utilisés. Tous les groupes ne fomentent pas des attaques, loin de là. Mais 8 projets violents ont été déjoués ces dernières années, on le rappelle, dont le coup d'état du complotiste Rémi Daillet. La crainte profonde des services, c'est qu'un individu plus exalté ou plus fragile ne passe véritablement à l'acte, d'autant que l'ultra-droite a maintenant ses héros, entre guillemets, notamment l'Australien Brenton Tarrant, auteur d'un attentat sanglant contre des mosquées en Nouvelle-Zélande. C'était en 2019.
Lorsqu'on évoque les fichiers S, Thomas, c'est la plupart du temps parce qu'on parle de terrorisme islamiste. Vous diriez que l'ultra-droite aujourd'hui dépasse la menace djihadiste ?
Alors non, le niveau de menace est sans rapport. Un seul chiffre pour mesurer la différence. Le parquet antiterroriste a ouvert 11 enquêtes sur l'ultra-droite depuis 2017 contre 48 rien qu'en 2021 pour le terrorisme islamiste. Mais les spécialistes rappellent et soulignent que l'ultra-droite a frappé près de 300 morts en 10 ans aux États-Unis.
La brigade RTL signée ce matin, Thomas Proutot. Merci Thomas.
La suite de notre série de reportages chaque matin à 8h qui nous permet d'aller à votre rencontre. Le thème de la série cette semaine, nos frontières.
De l'Espagne à la Belgique, du Luxembourg à l'Italie, nos voisins nous font souvent envie et nombre de Français traversent chaque jour ces frontières pour aller travailler. C'est le cas des Alsaciens. L'Allemagne est toute proche et la région frontalière est particulièrement dynamique. Mais pour travailler en Allemagne, c'est mieux de savoir parler allemand et c'est là que ça se complique. Même si petit à petit les choses évoluent, comme le montre ce reportage de Yannick Holland dans un célèbre parc d'attractions à 7 km de la frontière, côté allemand.
Au bord de la piscine à vagues, Madison surveille les baigneurs. Cette jeune maître nageuse fait partie des 880 Français qui travaillent à Europa Park. Son niveau scolaire n'était pas suffisant en allemand. Elle a dû faire jeune fille au pair pendant 6 mois à Stuttgart pour être vraiment à l'aise.
Si tu veux apprendre une langue, il faut aller dans le pays et pratiquer pour que ça rentre. Quand on se dit que, bah, en fait, on a la chance de pouvoir postuler dans un pays, mais dans le pays aussi à côté, ce qui fait deux fois plus d'offres. C'est vrai que voilà, au niveau scolaire, bah, voilà, les 2-3 heures de langue par semaine, c'est pas grand-chose.
Quelques mètres plus loin, Éloi, 22 ans, n'en revient toujours pas d'être là. Il est opérateur sur l'un des 17 toboggans de la piscine. Mais à la sortie du système scolaire français, son niveau d'allemand était...
catastrophique. Dans les cours, on apprend des choses certes sur la culture, c'est très important, mais il faut apprendre dans le concret et il faut apprendre à parler. C'est ça qui manque en fait en France, c'est de bien maîtriser.
Christina Jablonski s'occupe du recrutement des Français pour le parc d'attractions qui a créé sa propre académie pour donner des cours d'allemand aux Français qui viennent tenter leur chance.
Souvent, il y a un décalage entre ce qu'on apprend à l'école et ce qui est nécessaire sur le terrain. Quand on a un cursus allemand à l'école, on a souvent une compréhension passive. Et donc, il s'agit d'activer tout ça, ce qui peut être fait dans une immersion assez rapidement.
Ce retard français dans l'apprentissage des langues étrangères est en tout cas en train de se combler. Il y a une prise de conscience. 31 000 élèves alsaciens suivent désormais un cursus bilingue dans les écoles primaires.
Reportage signé Yannick Holland. Demain, direction Annemasse à la frontière suisse avec des habitants qui, là, pour le coup, profitent à plein des retombées financières leurs voisins. Grève inédite chez EDF aujourd'hui, un mouvement qui fait l'unanimité dans le groupe du haut en bas de l'échelle. Les salariés, comme la direction, protestent contre les mesures prises par le gouvernement pour contenir la hausse des factures d'énergie, à savoir l'obligation pour EDF de vendre à prix bas l'électricité à ses concurrents. La perte pour l'entreprise est estimée à 8 milliards d'euros.
Le sport en tennis, l'aventure s'arrête au quart de finale pour Alizy Cornet.
Oui, la française.
J'ai dit Alizy par
Alizy.
Les bois.
Alizy,
c'est bizarre comme interversion.
Alizy Cornet, donc la jeune française a été balayée par l'américaine Danielle Collins à l'Open d'Australie. 7-5, 6-1, elle était la dernière tricolore en lice. À l'Euro de handball, la France joue ce soir sa qualification pour les demi-finales face au Danemark. Les Bleus n'ont pas droit à l'erreur, mais un nul suffirait à valider leur ticket pour la suite de la compétition. Un match aux airs de revanche pour les Danois, car même s'ils sont déjà qualifiés, ils auront sans doute à cœur de se donner à fond, eux qui avaient été battus, souvenez-vous, par les Bleus en finale des JO. Jean-Michel Rascol.
Tous les Bleus seront d'attaque ce soir, à l'exception peut-être de l'entraîneur Guillaume Gilles, encore à l'isolement et qui trouve forcément le temps long.
On isole des personnes qui sont en forme, et par contre on a la possibilité de faire jouer des fiévreux ou des grippés, donc c'est... Bien évidemment, je fais ça pour la boutade, mais c'est aussi le paradoxe dans lequel on vit aujourd'hui pour faire en sorte de respecter le règlement de la compétition.
Les Danois, en pleine forme, déjà qualifiés pour les demi-finales, vont-ils s'engager à fond pour éliminer ceux qui les ont privés du titre olympique ? Question posée au capitaine français Valentin Porte.
Pour eux, ce match n'a aucun enjeu, mais évidemment, si j'étais Danois, dans ma tête, j'aurais envie de battre l'équipe de France qui m'a privé du titre olympique il y a quelques mois.
Dans un monde parfait, le Monténégro bat l'Islande cet après-midi, qualifiant la France pour les demi-finales, quelle que soit la partition récitée ensuite face aux Vikings du hand.
Mais il est en forme notre Jean-Michel.
Il est en forme et le match a lieu à 20h30. On espère que nos Bleus seront en forme également. Et puis il y a du football ce soir, match en retard de la 20e journée de Ligue 1. Angers reçoit Saint-Etienne, centre lanterne rouge du classement. Les Verts restent sur 7 défaites consécutives.
Pas compliqué, il faut absolument qu'ils gagnent. C'était le journal de Dominique Tenza. On se retrouve à 8h30 et à 9h.
À tout à l'heure.
Dans un instant, le surf de l'info, Cyprien Signy et l'anniversaire de notre Michel Sardou national.
Plus actuel que jamais, Michel.
À tout de suite.
RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
RTL Matin.
Le surf de l'info.
Cyprien Signy.
Et voilà que vous surfez avec les 75 ans de Michel Sardou.
Bah oui, c'est son anniversaire aujourd'hui et comme chacun le sait,
Michel Sardou est à la variété française ce que Mozart est à la musique classique. Intemporel.
Oh que oui.
C'est peut-être pas la vraie de vraie. La Java de Broadway.
Ah, la Java de Broadway. Et puis... qui, Yves, n'a pas fini une soirée avec...
Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix, Marine a plongé...
Ah, hurler comme un veau en se tenant par les épaules, Michel Sardou, chanteur populaire, chanteur polémique aussi, d'ailleurs, intemporel. Ben finalement, on ne sait pas trop. Parce que comme le dirait l'ami Pascal Pro, aujourd'hui...
On ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire.
Eh oui, ma bonne dame. Du coup, ben certaines chansons de Sardou aujourd'hui, compliquées quoi, hein, genre 1976.
Tu as tué l'enfant d'un amour, je veux ta mort, je suis pour...
Je suis pour, oui, la peine de mort en 2022. En France, eh, pas facile quand même. Hein ? Quoique, il disait quoi Éric Zemmour il y a 15 jours ?
Je ne pense pas que on ait bien fait d'abolir la peine de mort.
Voilà. Ah bah alors ?
Je suis pour...
philosophiquement, oui.
Bah oui, on peut dire des choses quand même. Après, parfois, ça va un peu trop loin, Sardou. 1976, toujours.
Autrefois, à Colombéchat, j'avais plein de serviteurs noirs et quatre filles dans mon lit.
Ouais, non, alors là, le temps béni des colonies.
C'est plus possible,
ça. En France en 2022, pas possible, on peut plus dire ça. Mais attendez, il y a quoi Éric Zemmour sur la colonisation ?
Bien qu'il y ait eu des crimes, mais il y a eu aussi des hôpitaux, des routes, des trains, des aéroports.
Ah ouais, en fait, c'était un peu... Ah bah ouais, finalement. Voilà. D'ailleurs, on dit plein de choses encore dans cette campagne. D'ailleurs, en réalité, il est super intemporel, Michel Sardou. Il y a 30 ans, quand il chantait Bac G.
Vous passiez un Bac G, un bac à bon marché. Dans un lycée poubelle.
Bah, l'éducation nationale qui part à volo. Bah, François-Xavier Bellamy, hein, le bras droit de Valérie Pécresse sur l'école.
On assiste à une défaite de la raison par l'échec massif de notre école.
On y est, un génie, Sardou, plus que jamais dans l'actu.
Elle court, la maladie d'amour.
Ouais, alors là, c'est plus la maladie du Covid, on n'a pas toujours raison. En tout cas, bon anniversaire, Michel, et ça, c'est sûr, on a le droit de le dire.
Alors Cyprien, on vous retrouve ce soir pour On défait le monde en direct avec toute votre équipe à partir de 18h40 avec Julien Seignier. Oui. Et puis je rappelle que Michel Sardou est aujourd'hui l'invité de Pascal Pro dès 13h avec vous puisque les auditeurs ont la parole sur RTL. Vous allez passer un formidable moment avec lui.
RTL Matin,
le choix d'Yves Calvi.
La guerre aux portes de l'Europe, avec les tensions croissantes entre Russes et Ukrainiens, la communauté internationale s'inquiète d'une possible escalade et du déclenchement d'une opération militaire d'ampleur de la part des Russes sur l'Ukraine. On entendait encore il y a quelques instants dans notre journal de 8h les derniers propos du président de la République. Bonjour Nicolas Tenzer.
Bonjour Yves.
Vous dirigez la publication de Desk Russie, vous êtes enseignant à Sciences Po et nous sommes en ligne avec Alexandra Goujon que je salue. Bonjour madame. Bonjour. Maître de conférences en sciences politiques, vous publiez d'ailleurs « L'Ukraine de l'indépendance à la guerre » aux éditions Le Cavalier Bleu. Depuis l'automne dernier, la Russie inquiète avec des mouvements d'hommes et de matériel aux frontières avec l'Ukraine. On parle bien de 100 000 hommes, Nicolas Tenzer, pourquoi faire ?
Mais pourquoi faire, on se pose la question. Surtout qu'il ne faut pas l'oublier, cette partie du Donbass, donc de l'Ukraine, oui. Les régions de Lugansk et du Donetsk sont déjà occupées. Elles sont déjà occupées de fait par la Russie depuis 8 ans, dans une guerre qui a fait 14 000 morts et qui, l'année dernière, il faut le rappeler, a fait encore 80 morts. Donc, ce n'est pas une nouvelle invasion, mais c'est quelque chose, je dirais, qui serait une escalade nouvelle dans une guerre qui existe et qui est en quelque sorte gelée depuis maintenant 8 ans.
Alors justement, hier, on a cru franchir un nouveau palier avec les tensions entre les mouvements de troupes. Alexandra Goujon, peut-on encore éviter une guerre aux portes de l'Europe ?
Ah oui, on peut l'éviter parce que je rejoins Nicolas Tenzer, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement quel est le plan russe. Est-ce que c'est justement de faire pression et uniquement de faire pression et de provoquer d'ailleurs une agitation diplomatique et médiatique pour montrer que la Russie peut aller plus loin et obtenir dans ce cadre de pression un certain nombre de concessions qu'elle ne pourrait pas avoir en utilisant la simple rhétorique qui est elle-même menaçante depuis quelques semaines à Moscou.
Quelle est la différence avec la situation en Crimée ?
Mais la différence majeure, c'est que là, on pourrait avoir une nouvelle invasion, mais qui serait une annexion de cette région du Donbass, là, comme la Crimée, pour le coup. Mais encore une fois, je pense que le point d'Alexandra Goujon était fondamental. C'est-à-dire que est-ce qu'on va véritablement aujourd'hui, est-ce qu'on peut d'ailleurs négocier avec M. Poutine et sur quoi ? Quel est le grain à moudre ? Est-ce qu'on peut, nous, occidentaux, pays libres, démocratiques, accepter que ces régions continuent à être annexées ? Je rappellerai d'ailleurs aussi que 20% de la Géorgie est toujours annexée aussi par les forces russes depuis 2008. Que les forces de M. Poutine ont tué en Syrie plus de civils syriens que même l'État islamique. Donc, je veux dire, est-ce qu'on
vous
peut
êtes en train de nous dire que pour jusqu'ici, on a toujours reculé face
on
à
a
Vladimir
exactement,
Poutine.
C'est-à-dire que depuis 22 ans, Poutine a toujours gagné la guerre. Et une guerre chaude, c'est pas une guerre froide. Hein. Encore une fois, les 14 000 morts en Ukraine, je parlerai de la Syrie, je parlerai de la Géorgie. En Géorgie, il y a eu les crimes de guerre en Syrie. Mais en Géorgie, le Conseil de la Cour européenne des droits de l'homme a constaté des crimes de guerre commis en 2008. C'est un jugement.
Alexandra Goujon, est-ce que nous sommes impuissants ? Vous connaissez bien cette région ukrainienne, vous y étiez il y a encore peu de temps. Comment l'Ukraine peut riposter si elle le peut, ou en tout cas s'opposer aux Russes à ses frontières ? Ont-ils les moyens ? Et finalement, qui soutient l'Ukraine contre la Russie ? Je rappelle les propos du président de la République qui ont été diffusés ce matin sur RTL. La riposte sera là et le coût sera très élevé. Ce sont des rodomontades ou c'est une réalité ?
Alors, je crois, pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, la Russie s'appuie sur le fait aujourd'hui que les Occidentaux ne sont pas dans une perspective interventionniste. Et le retrait des Occidentaux d'Afghanistan en est un signe de plus, si je puis dire. Mmh. Donc, effectivement, dans ce contexte, Poutine avance ses pions. Et je crois que ce qui l'agace profondément, c'est que le conflit a entraîné un regain de patriotisme en Ukraine. L'opinion publique est beaucoup plus favorable à une adhésion à l'OTAN aujourd'hui qu'il y a une dizaine d'années. Et ce qui l'agace aussi, c'est justement le soutien des Américains, des Britanniques, le soutien militaire aujourd'hui à l'Ukraine. Et d'ailleurs, très récemment, là, les Américains ont parlé de mouvements de troupes dans les États membres de l'OTAN. Et voilà, véritablement, je pense que Poutine veut stopper ou du moins faire peur aux Occidentaux pour qu'ils limitent leur soutien à l'Ukraine et qu'ils fassent pression pour que l'Ukraine en fait fasse un certain nombre de concessions. Alors quand le président de la République parle de sanctions fortes, on sait aujourd'hui que les sanctions qui sont sur la table sont des sanctions économiques. Un certain nombre d'entre elles sont complexes à mettre en œuvre parce qu'elles pourraient nous revenir en boomerang, notamment sur les questions énergétiques. Mais pour l'instant, il n'est pas question d'intervenir militairement. Encore une fois, si ce n'est de proposer un soutien militaire à l'Ukraine.
Nicolas Tenzer.
Ben, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, effectivement, les sanctions économiques, oui, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il y a des propositions sur la table, et pour l'instant, les Occidentaux ont toujours reculé.
Qui aller, sont des beaucoup sanctions... plus, aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire,
aller
soyons
beaucoup
précis.
Plus loin dans les sanctions économiques, par exemple, contre tout le premier cercle de M. Poutine. Vous savez, il y
on
avait...
a besoin de son gaz. Alors, comment on fait pour faire...
Ben, attendez, on n'a pas besoin. Encore une fois, nous pouvons nous en passer. Les Allemands, contrairement à ce qui est dit, pourraient parfaitement, je dirais, s'en passer. D'ailleurs, aujourd'hui, dans l'hypothèse d'une guerre, les Américains sont en train de proposer des solutions alternatives. Voilà. C'est vrai que les Allemands ont toujours reculé pour des raisons qui sont liées à une forme de corruption profonde d'une partie de la classe économique et de la classe politique, corruption alors qui n'est pas légale, mais en tout cas intellectuelle, mais qui devrait d'ailleurs être légale. Quand on voit un certain nombre d'anciens dirigeants allemands, il y en a quelques Français aussi, britanniques et autres, qui travaillent pour des entreprises russes, moi j'appelle ça de la corruption. Et je pense que là-dessus, il faut quand même qu'on soit... Mais donc, je reprends sur la proposition des sanctions économiques. Il y a une liste qui a été proposée par Alexei Navalny, voilà, enfin plutôt sa fondation anticorruption, qui désigne nominativement 35 personnes proche du premier cercle. C'est-à-dire que c'est pas le peuple russe. Nous, le peuple russe, personne ne peut s'opposer au peuple russe ou à la Russie en général. C'est le régime. Ce sont tous ceux qui profitent finalement de ce régime et qui soutiennent un régime criminel.
Vous nous dites qu'on a des armes à utiliser, mais qu'il faut juste oser les utiliser.
Alors, il faut les utiliser. On les a. Bien sûr que nous les avons. Nous les avons.
Merci beaucoup Nicolas Tenzer. Vous êtes directeur de la publication Desk Russie et merci à Alexandra Goujon, maître de conférence en sciences politiques. Je rappelle votre livre L'Ukraine, de l'indépendance à la guerre aux éditions Le Cavalier Bleu. Dans un instant, la météo avec Lou Bonin puis ce qu'il faut retenir de l'actualité avec Dominique Tenza. A tout de suite sur RTL. Bonne journée à tous.
Yves Calvi,
RTL Matin.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 8h30, l'essentiel de l'actualité en trois titres ce matin, Dominique Tenza.
Florent Pagny annule la fin de sa tournée. Le chanteur annonce être atteint d'une tumeur cancéreuse au poumon qui n'est pas opérable. Il va devoir subir 6 mois de chimiothérapie et de rayons X qui l'oblige donc à reporter ses concerts. La riposte sera là, prévient Emmanuel Macron qui met en garde la Russie contre une invasion de l'Ukraine. Même si le chef de l'État français maintient sa volonté de dialogue, il doit s'entretenir après-demain vendredi avec Vladimir Poutine. Et puis le directeur général d'Orpea va devoir s'expliquer. Il est convoqué par le gouvernement après l'enquête édifiante sur les méthodes du groupe dans ses EHPAD.
Bah dites donc, il y a beaucoup de convoqués. Hein. Dominique Tenza, qu'on retrouvera à 9h. Louis Bodin, notre météo à 7 jours. Vous convoquez le froid toujours?
Ah oui, inlassablement, je me répète de jour en jour. C'est vrai que ça devient un peu long, mais c'est comme ça. La situation est bloquée, l'anticyclone est là. Et puis d'ailleurs, les perturbations font le tour de cet anticyclone pour descendre en ce moment. Vous avez vu sur la Grèce, la Turquie, où on a eu 30 cm de neige à Athènes. C'est incroyable, ça va durer toute la semaine. Tout comme nous, où on va retrouver notre anticyclone. Donc demain, même conséquence, des nuages, des brouillards le matin, jusque dans la vallée de la Garonne, dans toute la moitié nord, sauf en montagne. Et puis en cours d'après-midi, ça se lèvera, peut-être bien couillé, peut-être bien non. Alors souvent, ça restera très gris au nord de la Seine et dans le nord-est. Et puis ailleurs, il y aura peut-être espoir de quelques éclaircies, toujours plus belles dans le sud. Je peux répéter ça pour la journée de vendredi. Samedi également. Alors vendredi, j'ajoute un peu d'humidité quand même. Peut-être quelques flocons, un petit peu de bruine là dans les régions de l'est, mais ça n'ira pas très loin. Samedi, toujours cette grisaille, voilà, même discours, avec toujours des températures hivernales. Non, mais c'est vrai, c'est un peu lassant quand même.
Non, mais pas du tout. Je vous écoute avec plaisir.
Mais c'est comme ça. Et puis jusqu'en début de semaine prochaine, on va conserver ces conditions. Alors, on surveillera au fil des jours, on va ajuster ça. Peut-être un peu plus d'humidité dans les régions de l'extrême est, donc peut-être quelques flocons jusqu'en plaine, en Lorraine, en Alsace, ou encore du côté de la région Rhône-Alpes, mais rien de moins sûr. Donc, je vais affiner de jour en jour ces conditions donc, qui restent bloquées encore pour quelques jours.
Et ben voilà. Merci beaucoup, cher Louis. Bonne journée à vous. Dans un instant, les experts de la rédaction France 2022. Vous savez que ce sont les grands débats politiques de notre présidentielle et cette question aujourd'hui, a-t-on sacrifié nos aînés à vrai les révélations qui ont été faites hier dans certains EHPAD.
RTL Matin, 7h-9h30, avec Yves Calvi. RTL Matin.
Bonjour, c'est Stéphane Boutsock.
Laissez-vous tenter.
Quand un inconnu rencontre un philosophe, Bernard Campan et Alexandre Jolian ont écrit et réalisé le film Presque, la rencontre d'un croque-mort et d'un handicapé. C'est drôlement tendre, tendrement drôle. C'est à voir au cinéma cette semaine, tout comme Une jeune fille qui va bien. Premier film de réalisatrice, signé Sandrine Kiberlin. On en parle et on les écoute ce matin dans Laissez-vous tenter. Et nous vous ferons gagner aussi des DVD de Dune, l'un des plus gros succès de l'année 2021. A tout à l'heure, 9h.
RTL Matin, France 2022.
Il est 8h35, bienvenue dans France 2022, votre rendez-vous avec les experts de la rédaction, chaque matin à 8h35. Et cette question qui va nous faire débattre ce matin, a-t-on abandonné nos aînés? Cela fait suite bien entendu aux révélations de notre confrère Victor Castanet sur des mauvais traitements supposés dans des EHPAD. Il était hier l'invité d'Alba Ventura. Pour en parler en studio avec nous, Isabelle Choquet, Olivier Bost, éditorialiste politique à RTL, Anaïs Bouissou de notre service économique et social. Bienvenue à tous les trois. Anaïs, d'abord, combien de Français se trouvent dans ces établissements aujourd'hui, dans le public et dans le privé?
Aujourd'hui, vous avez 600 000 résidents dans les 7500 EHPAD qu'on compte en France, sachant que vous avez un résident sur deux qui est dans le public, oui, que vous avez également trois résidents sur 10, on n'y pense pas beaucoup, mais qui sont dans le privé non lucratif, c'est-à-dire oui, des structures associatives, et puis les structures comme Orpea, Corian, là c'est deux résidents sur 10, et ça c'est le privé lucratif.
Est-il vrai pour le privé que ces EHPAD sont devenus des machines à cash? Est-ce qu'il y a des aides pour ceux qui touchent des petites retraites?
Alors, pour Corian comme Orpea, il faut compter quand même 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Donc oui, il y a de l'argent. Sachant qu'en plus, quand vous êtes dans le public par rapport à quand vous êtes dans le privé, vous payez en moyenne plus 860 euros par mois supplémentaires dans le privé quand même. Alors à côté de ça, oui, il y a des aides. On a l'allocation personnalisée à l'autonomie. Oui. Mais même quand on déduit toutes les aides, tous les crédits d'impôt, il vous reste toujours 1850 euros de reste à charge à payer tous les mois.
Ce qui reste une somme importante.
Alors,
ben oui, bien entendu. Ça coûte cher une place dans une maison de retraite aujourd'hui. Pourquoi donc, Isabelle Choquet? Et qu'est-ce qui justifie ce prix?
Ben, un hébergement en EHPAD aujourd'hui, ça coûte à peu près 2000 euros par mois. Alors c'est une moyenne, hein, bien sûr, parce que quand on est dans le privé haut de gamme, on est bien, bien au-delà. On l'a vu là avec le livre de Victor Castanet. 2000 euros par mois en moyenne, ça correspond à trois prestations. L'hébergement, ce qu'on appelle l'hôtellerie, les soins et l'accompagnement. Et pour assurer ces prestations, parce qu'ils coûtent le plus cher, ce sont les salaires, bien sûr. Hein. Généralement, c'est 50% du budget. Ce qui coûte aussi, c'est le bâti, les crédits à rembourser. Le chauffage, mine de rien, en ce moment, avec la hausse du prix de l'énergie, ça pèse lourd. Et puis après, bien sûr, la blanchisserie, les repas. Vous allez me dire, bah oui, mais bon, les petits vieux, ça mange quand même pas beaucoup. Bah ouais, mais si on veut leur servir des repas équilibrés, si, ça coûte.
On a entendu des chiffres qui, certainement, pour beaucoup de nos auditeurs, paraissaient ahurissants, de 6 000, 7 000, 8 000,
jusqu'à 10 000 euros.
10, voire plus 12 000 euros dans certaines maisons de retraite. Enfin, c'est énorme, pour une personne seulement, on est d'accord.
C'est l'hôtellerie, là, c'est la prestation hôtellerie qui est facturée très 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 cher, hein, je pense qu'on peut le dire.
Oui, exactement. Et puis, il y a aussi quelque chose quand même, c'est que, on l'a dit, le coût maximum, c'est pour le personnel. Et étant donné qu'il y a des différences entre le lucratif et le public, oui, on compte à peu près 69 équivalents temps plein pour 100 résidents dans le lucratif, oui, et on compte 57 équivalents temps plein à côté de ça. Donc en fait, il y a des différences d'encadrement du personnel et des résidents.
Olivier, on a l'impression que ça n'intéresse pas nos responsables politiques. Je me trompe ou enfin,
C'est pas un sujet qu'ils ignorent. D'abord parce que tous les Français sont ou vont être concernés parce qu'ils ont des parents,
oui,
tout simplement.
Et ça, on le sait depuis très longtemps. On ne cesse de le répéter. Et je suis désolé, j'ai pas vu le grand bouleversement qui a été mis en place par un quelconque de nos présidents, quelle que soit sa couleur politique.
Je suis bien d'accord. Et de la même manière, ils peuvent pas non plus ignorer tous ces sujets. Et là, il y a un nouveau scandale qui éclate. Mais enfin, régulièrement, on a des reportages. J'ai regardé parce que je reprenais un peu. C'est un sujet que j'aborde parfois avec les politiques. Oui. Et en fait, en recherchant tout simplement et en tapant le mot EHPAD dans mes archives, je suis tombé sur plein de conversations que j'ai eues et qui remontent sur une dizaine d'années. Parce que le sujet, effectivement, est présent à travers la question de la cinquième branche. Ça fait plus de 10 ans qu'on a ce débat-là. La cinquième branche vient d'être créée, mais c'est une coquille vide. Et ça fait plus de 10 ans même qu'il y a un secrétaire d'État qui est chargé de ces questions-là. Mais effectivement, il n'ignore pas le sujet, mais le sujet n'avance pas parce qu'il cale systématiquement sur une question financière. Ce n'est pas une priorité, ce n'est pas une vraie priorité des politiques.
Pardonnez-moi, l'idée, c'est qu'il y a un puits financier sans fond et en fait, on n'ose pas aborder le sujet et aller au bout de la logique, Anaïs Bouissou.
Oui, on n'utilise pas assez d'argent pour ça. Je vais vous donner un exemple. Le budget 2022, aujourd'hui, on a mis 400 millions d'euros pour le grand âge, tout compris. Donc on pourrait dire 400 millions d'euros, c'est quand même une somme assez intéressante. Eh bien, en fait, il y a un rapport qui explique, un rapport qui a fait consensus dans le domaine du grand âge, le rapport Libault. Dans ce rapport, si on le lit en détail, on voit que 400 millions d'euros, c'est uniquement le chiffre qu'il faudrait pour avoir un taux d'encadrement dans les EHPAD correct. Et à côté de ça, on n'a pas du tout tout ce qui concerne la rénovation des EHPAD, tout ce qui concerne le reste à charge des familles, des résidents, on en a parlé. En fait, il ne faudrait pas 400 millions d'euros par an, il faudrait 10 milliards d'euros par an si on voulait faire face aux défis du grand âge.
Et 200 000 acteurs supplémentaires pour travailler aux côtés des personnes âgées.
Il faudrait 25% de personnel en plus.
En fait, c'est juste pour résumer, ça fait, sur les trois derniers quinquennats, la question est réellement présente. Mais ça fait trois quinquennats où il y a des promesses, promesses de loi, promesses de changement de système, et trois fois que ça cale.
Laurent Berger de la CFDT parlait de bombes à retardement hier dans RTL Soir en évoquant la perte d'autonomie, le vieillissement de la population. Il a raison ?
Oui. Oui, il a raison. Aujourd'hui, vous avez 1,5 million de personnes qui ont 85 ans et plus.
Oui.
1,5 million. Si on compte à l'échelle de 30 ans, il y en aura quasiment 5 millions. Des personnes qui ont 85 ans et plus. Donc vous imaginez la masse...
Les baby-boomers.
Oui, notamment. Mais voilà, vous imaginez la masse de personnes. Alors, dans les 85 ans et plus, tous ne sont pas totalement en perte d'autonomie. Mais enfin, on parle quand même de la fin de vie. On parle quand même d'un accompagnement nécessaire pour ceux qui sont plus ou moins dépendants. Oui. Et on parle d'un accompagnement dans les EHPAD. Mais en fait, là, on se concentre depuis le début du sujet sur les EHPAD. En fait, les EHPAD, c'est uniquement 20% des 85 ans et plus. Les 80% restants, ils vivent à domicile. Et donc, en fait, c'est ça aussi.
Oui,
c'est
il faut
ça
aussi du personnel. Alors, justement, la question du personnel, elle est absolument centrale dans toute cette problématique. Isabelle.
Elle est centrale, mais on en manque du personnel. Ouais. Et on en manque pour une raison très, très simple. C'est que c'est mal payé. Voilà. Une aide-soignante dans le public, en début de carrière, ça gagne, vous savez combien ? 1700 euros brut. Après 20 ans de service, on atteint péniblement 2300 et encore faut-il tenir pendant 20 ans parce que c'est quand même particulièrement pénible comme métier. C'est physique, il faut déplacer des personnes qui n'arrivent plus à bouger toutes seules. Il y a une pénibilité globale de toute façon. Et il y a un chiffre qui en dit long, c'est celui des accidents du travail. Le taux d'accident dans les EHPAD chez les aides-soignantes est trois fois supérieur à la moyenne nationale. Il est au-dessus du taux d'accident dans le BTP, 30% au-dessus.
Donc, pardonnez-moi. Oui. Non, je vous ai interrompu.
Bah donc voilà, les bas salaires, la pénibilité, puis un problème de formation aussi. Aucune formation spécifique au grand âge, ça fait que voilà, il y a beaucoup de turnover. 15% du personnel a moins d'un an d'ancienneté.
Alors je crois très important de rappeler que toutes les maisons de retraite ne maltraitent pas nos aînés. D'ailleurs, on imagine qu'il y a des contrôles, Isabelle.
Oui, il y a des contrôles des affaires sociales, des agences régionales de santé, des départements, mais bon, pas très fréquents. Un peu téléphoné aussi, une fois sur deux, l'établissement est prévenu. Vous pensez bien que, évidemment, tout est nickel. À une époque, on avait imaginé de renforcer les contrôles surprises. C'est resté une idée. C'est comme les plans grand âge, ça reste sur la table. Et puis, le plus souvent, le constat après un contrôle, c'est que, il y a un manque de moyens. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue, vu que le plus souvent, c'est l'État qui ne donne pas les moyens et qui contrôle en même temps. Alors, certaines personnalités proposent justement, là maintenant, de créer un organisme de contrôle indépendant, un peu comme le contrôleur général des prisons. En attendant, il y a la plateforme de signalement 3977. Il ne faut vraiment pas hésiter à les appeler quand on est témoin de maltraitance.
Ouais, en fait, dans notre système de santé, c'est un peu le dernier étage, si vous voulez. On l'a vu lors de la crise du Covid. Ça a été beaucoup questionné dans leur rapport avec les agences régionales de santé. Les EHPAD qui avaient des soucis à ce moment-là, évidents, de clusters, etc., c'était la dernière priorité de notre organisation de santé et notamment des agences régionales de santé.
Je vous rappelle cette équation à deux chiffres, 10 milliards et 200 000 employés supplémentaires pour s'occuper de nos aînés. Merci à tous les trois. France 2022 est à retrouver comme chaque jour en podcast sur notre application mobile. On va retrouver Laurent Gérard dans un petit instant avec Mademoiselle Jade et toute leur équipe.
RTL Matin.
Avec Yves Calvi. RTL Matin.
Yves Calvi.
Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves Calvi.
Bonjour Mademoiselle Jade.
Bonjour Monsieur Calvi, bonjour à tous. Après les records de contamination enregistrés ces derniers jours, on parle de plus en plus de la sortie prochaine de la pandémie de Covid. On fait le point avec notre économiste en chef, François Langlais. Mm-hmm. Alors François, est-ce le début de la fin ?
Et au contraire, je dirais que c'est la fin du début. Pour prendre une image accessible à tous, disons qu'on n'est pas encore tout à fait sorti de l'auberge, mais qu'on est à la réception, en train de payer. C'est ce qu'on appelle la sortie de crise ou la sortie de l'auberge, si vous préférez.
Ah d'accord. Et alors, François ?
Ben, la sortie de l'auberge, c'est le moment où on découvre le prix du quoi qu'il en coûte. Autrement dit, le prix des extras du minibar.
Votre comparaison est limpide, François Langlais, comme toujours.
Oh oui.
Allez-y, poursuivez, s'il vous plaît, votre démonstration.
Eh ben, c'est très simple. Imaginez que la veille, vous soyez dit « Ah, je vais me faire un petit apéritif, quoi qu'il en coûte ». Vous avez pioché dans le minibar. Au moment de la sortie de l'auberge, vous découvrez que le sachet de cacahuètes molles est à 9 euros et que la mignonnette de whisky coûte 13 euros. Oui. Si en plus, vous avez visionné un film olé olé, la note peut monter encore plus vite. Autrement dit, c'est la douche froide.
Je comprends. Vous nous prédisez que cette fin probable de la pandémie va nous coûter cher.
Attention, comme toujours en économie, c'est pas si simple. Il y a quand même des voyants qui sont ouverts. Regardez ce qui se passe avec les vaccins. Ils se démocratisent, ils ne sont plus réservés aux pays riches. Prenons le tapioca.
Ah ben alors là, François, il faut nous situer le tapioca.
Oui.
Le tapioca, c'est un petit pays d'Amérique centrale situé entre la maïzena et le gros gâteau. Et ben, au tapioca, on a développé un vaccin qui coûte moins de 2 grumeaux. Ah. Le grumeau, c'est la monnaie locale du tapioca.
Ah d'accord, et c'est un vaccin qui fonctionne aussi bien que les nôtres ?
Tout à fait, mais comme il est un peu moins puissant, il faut une dose toutes les 12 heures. Donc,
ah, en effet.
Pour que le pass vaccinal reste valide, il faut dormir au vaccinodrome. Résultat, l'épidémie est en forte baisse. Ben et oui. Le prix des loyers aussi.
Et voilà.
Comme quoi, les bonnes idées viennent parfois de là. On ne les attendait pas.
Eh bien, merci François.
Dans ma prochaine chronique économique de 7h39, je vous parlerai d'une autre bonne idée qui nous vient cette fois de Chine. La vaccination obligatoire des chiens avant la cuisson.
Oui, ben merci François. Merci bien. Le mouvement d'Éric Zemmour, Reconquête, et le Rassemblement National de Marine Le Pen s'accusent mutuellement de se copier, de s'espionner pour donner son avis sur cette guéguerre. Jean-Marie Le Pen a décidé de reprendre son fameux journal de bord, animé pour l'occasion par la toujours très accorte Marie Derbey.
Quel plaisir de vous retrouver, ma chère Marie. Vous m'avez manqué. Je dois avouer que je préfère votre présence avantageuse et toujours aussi rebondie au type en col roulé plat comme une limande qui vous a remplacé et qui sort l'aftershave et qui ne comprend rien à mes plaisanteries.
Oh, président, elle moi aussi, je suis contente de vous retrouver. Mais l'heure est grave, président. Nos militants, qui sont de vrais Français, ne savent plus vers qui se tourner. Éric Zemmour ou Marine Le Pen ?
Voyez-vous, monsieur Marie, j'ai toujours dit, n'est-ce pas, qu'entre l'original et la copie, il était souhaitable que les patriotes choisissent l'original. Et bien entendu, lorsque je parle des patriotes, je ne parle pas du groupuscule droito-tapeto anti-vaccino agité du bocalo opportuniste, animé par ce félon de Florian Philippot qui a osé se baptiser les patriotes, n'est-ce pas ? Et aurait mieux fait de s'appeler les gnognottes ou les chachottes.
Oh, président, vous avez toujours le mot qui fait mouche.
Oui, hein.
Mais alors, Éric Zemmour et Marine Le Pen, lequel ou laquelle est la copie ?
Écoutez, je dois avouer, ma chère Marie, que le choix est cornélien. Mm-hmm. D'un côté, il y a le Rassemblement National qui est dirigé, vous le savez, par ma fille, par cette dame qui, au lieu d'aimer les Doberman de race pure comme son papa, préfère les petits chats métis, d'ailleurs. Vous vous souvenez qu'elle a changé le nom de mon parti chéri pour en faire un parti de gouvernement Maastricht-Libéralo, Giordano-Bardellano, BFMO compatible.
Non, mais comme c'est bien résumé, président.
Oui, hein. Face à elle, il y a cet homoncule maigrichon au faciès de petit tailleur roublard qui profère des insanités sur notre grand-père à tous, le maréchal Pétain. Ah, décidément, ma chère Marie, c'est comme dans votre corsage, entre les deux, mon cœur balance.
Oh, président, je crois que votre coach, le maréchal Moustache, vous a entendu.
Chef Le Pen, chef Le Pen, me reçois-tu ?
Je vous reçois fort et clair, maréchal, comme au bon vieux temps de Philippe Henriot sur Radio Paris.
Chef Le Pen, je suis venu te demander de remettre à sa place ce petit vermisseau qui parle de moi à tort et à travers. Je compte sur toi pour me rétablir dans ma dignité. Contrairement à ce que prétend cet Éric Zemmour, je n'ai jamais sauvé personne.
Vous pouvez compter sur moi, maréchal Moustache. Je reprends le combat et je reste bon pied, bon oeil.
Oh, président, c'est l'une de vos meilleures blagues. Vous êtes vraiment en grande forme en ce moment.
Ah, c'est vrai que les visites du maréchal Moustache me donnent toujours la cartoffle, n'est-ce pas ? C'est décidé, je vais me présenter moi aussi en 2022. Je vais faire courir, moi, ces petits morveux.
Les Les concerts debout pourront reprendre dès le 16 février, date qui marquera également la fin de la jauge à 2000 spectateurs. Trois chanteurs à succès sont avec nous pour en parler. Je commence avec vous, Grand Corps Malade. Ça y est, c'est la fin des restrictions.
Salut à toi, Mademoiselle Jade. En effet, il était temps. On était grave dans la panade, avec les mesures de Véran. Ceci dit, les concerts debout, ça ne m'a pas trop impacté. Quand tu entends mes slams tout mou, t'as pas envie de pogoter.
Très bien, merci Grand Corps. Et pour vous, Vincent Delerme, la reprise des concerts, oui, c'est une bonne nouvelle.
Avec Jérémy et Solange, on va retourner au concert, écouter des chanteuses à franges recommandées par France Inter, ou bien des rappeurs à bonnet et caleçons qui dépassent du froc. Les nouveaux brels, à ce qui paraît, c'est ce qu'on en dit dans les Inrock.
Eh bien justement, je termine ce tour de table avec Caris, la star du rap français. Que signifie pour vous le fait de pouvoir remonter sur scène ?
Pognon, 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 pute, 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 pognon, 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 pute, 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 pute.
Eh bien, merci pour ce résumé.
Bonjour,
Pascal. Bonjour, Pascal Pro. Quelles questions allez-vous poser ce midi dans les auditeurs ont la parole.
Parlerons bien sûr de la levée progressive des restrictions sanitaires. L'épisode Covid est-il enfin terminé? Et si c'est le cas, que vont devenir Jean Castex et Olivier Véran? Qui vont-ils aller emmerder avec leurs mesures auxquelles on ne comprend rien? Vont-ils se reconvertir dans la rédaction de Notice IKEA? Je pose la question au 3210.
Ah, une autre question, Pascal, ou c'est fini?
Oui, nous parlerons également de la primaire populaire à gauche, dont on se demande à quoi elle sert, puisque les candidats de gauche ne veulent pas y participer. À défaut d'obtenir l'union, la gauche va-t-elle l'avoir dans l'union ou dans l'oignon? J'attends vos appels au 3210.
En attendant, une centaine d'artistes de gauche ont signé une pétition en faveur de cette primaire.
Ce qui nous amène à la dernière question. Dans la mesure où aucune pétition d'artistes de gauche n'a jamais conduit au moindre changement dans l'histoire, à quoi servent les artistes de gauche? Leurs pétitions sont-elles encore plus inutiles que la feuille de salade à côté du steak frites, les tétons chez les hommes ou les testicules du pape? J'attends vos appels au 3210.
Pascal qui connaît la vie.
Mais oui, je crois qu'il faut d'abord vous dire merci pour ces moments de bonheur partagés. Rappelez à nos auditeurs qu'on vous retrouve sur le site RTL.fr et que nous avons rendez-vous dès demain matin.
Mais avec joie.
Merci à toute l'équipe.
À demain.
À demain.
Autre rendez-vous que je me dois de vous rappeler, d'ores et déjà un grand moment de radio dès 13h sur RTL, puisque Pascal Pro et vous auditeurs qui avez la parole pourrez fêter les 75 ans de Michel Sardou. Un dialogue qui sera à n'en pas douter unique, je vous le rappelle donc, dès 13h. Dans un instant, une excellente recette d'escalope milanaise. Elle sera signée Cyril Lignac. À tout de suite sur RTL, il est 8h55. Bonne journée.
RTL Matin, Yves Calvi. RTL Matin, Yves Calvi.
Cyril, on est très heureux de vous retrouver. Bonjour.
Bonjour.
Stéphane vit dans le Val d'Oise et il aimerait savoir votre secret pour réussir une escalope milanaise moelleuse à l'intérieur et croustillante à l'extérieur. Alors moi, je peux vous dire que c'est une de vos spécialités dans votre restaurant italien, que c'est exceptionnel.
Alors déjà, une bonne escalope milanaise, je vais même pas trahir le secret, c'est que déjà, il faut une bonne viande. Il faut aller chez le boucher et il faut prendre une viande savoureuse de veau qui a du goût et qui a du jus. Parce qu'on peut manger des escalopes milanaises qui sont sèches et qui n'ont pas cette
juicosité. Du caoutchouc, oui, d'accord.
Donc déjà, on va chez le boucher, on se fait plaisir. On n'en mange pas souvent, mais on achète de grande qualité une bonne escalope. C'est pour ça que chez moi, elle est bonne, parce que je la prends vraiment chez le boucher, très bonne et un peu chère.
D'accord.
Mais au moins, on a du jus. Alors là, on tape. Déjà, on la sale. Moi, je sale toujours avant.
Avant.
Avant. Parce que quand elle va cuire, elle va donner du jus. Le jus va être emprisonné dans la croûte. Et donc, s'il n'est pas salé, ben c'est tout fade. Ensuite, on prend 100 g de farine. Donc, on met de la farine et de la chapelure. Je la tapote dans la farine. Je la passe dans les œufs battus. Ensuite, je la mets dans la chapelure. Et je le fais qu'une fois. Souvent, quand on panne d'autres pièces de viande, on panne plusieurs fois. Là, une escalope milanaise, elle est fine. On fait une fois, pas trop épaisse, pour qu'on ait vraiment le croustillant à l'extérieur et le moelleux à l'intérieur. Et ensuite, je fais chauffer une poêle avec du beurre. Alors, clarifié, pas clarifié. D'accord. On met le beurre, un petit peu d'huile pour pas que ça brûle. Et là, on cuit d'un côté, on cuit de l'autre, on arrose bien. On peut ajouter un peu d'ail et du thym dans la poêle pour parfumer le beurre. Et là, on la cuit des deux côtés bien colorés. Et c'est tout. Un peu de fleurs de sel, un jus de citron dessus et moi je me régale avec ça.
Moi aussi je me régale. Quel bonheur. Merci infiniment. On retrouve cette recette sur le site RTL.fr et sur notre application mobile. RTL. Il est 9h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Ce qu'il faut retenir de l'actualité ce matin avec Dominique Tenzar.
Et d'abord, Florent Pagny qui annonce ce matin l'annulation de sa tournée en raison d'un problème de santé. Une tumeur cancéreuse au poumon qui n'est pas opérable et qui demande au chanteur 6 mois de chimiothérapie et de rayons X.
Nous reviendrons sur cette information dans quelques instants dans Laissez-vous tenter.
Le directeur général d'Orpea, leader mondial des EHPAD, convoqué par la ministre chargée des personnes âgées, Brigitte Bourguignon, il va devoir s'expliquer sur les accusations de maltraitance dénoncées dans un livre qui paraît ce matin. Le groupe qui dévisse en bourse depuis 2 jours dément les faits qui y sont rapportés. L'ouverture aujourd'hui à Paris du procès d'un militant d'ultra-droite, un ancien militaire de 38 ans qui comparaît pour terrorisme. Il est accusé d'avoir projeté des attaques contre la communauté juive de Limoges, c'était au printemps 2020. Selon les informations recueillies par RTL, 1300 militants d'ultra-droite sont désormais fichés et surveillés par les renseignements. La riposte sera là, prévient Emmanuel Macron, qui met en garde la Russie contre une invasion de l'Ukraine. Même si le chef de l'État français maintient sa volonté de dialogue, il doit s'entretenir après-demain, vendredi, avec Vladimir Poutine. Une grève inédite aujourd'hui chez EDF, un mouvement qui fait l'unanimité dans le groupe suite à la décision du gouvernement de contenir la hausse des factures d'énergie et d'obliger EDF à vendre l'électricité à ses concurrents à bas prix. La perte pour l'entreprise est estimée à 8 milliards d'euros. Le tennis s'est terminé pour Alizé Cornet, battue en quart de finale de l'Open d'Australie par l'américaine Danielle Collins. 7-5, 6-1, c'était la dernière tricolore en lice. On suivra ce soir les Bleus du handball qui affrontent le Danemark dans le cadre de l'Euro. Des Danois déjà qualifiés pour la suite de la compétition. Il suffira d'un match nul au tricolore pour décrocher également leur billet. En revanche, une défaite serait synonyme d'élimination. Et puis enfin du football avec un match en retard de la 20e journée de Ligue 1, Angers-Saint-Etienne. Les Verts qui doivent impérativement stopper l'hémorragie après 7 défaites consécutives.
Match très important pour Saint-Etienne. Merci beaucoup Dominique Tenza. Il est 9h02, on se laisse tenter.